Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juillet 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ce début est chaotique.
Chaotique.
Et oui, parce que c'est le désordre général, c'est de ma faute d'ailleurs. J'ai cru, mon opinion sur l'homme est en train de changer. Voilà ce que je voulais dire.
Et sur la femme ?
J'en ai pas. La prudence commande de n'en pas avoir.
Une femme ou pas d'opinion ?
Non, une femme, j'en ai une, Dieu merci.
Et elle écoute. Ça explique sa prudence, je comprends.
Non, mais j'en profite pour l'embrasser à travers les ondes. Mais non, sur l'homme, parce que j'ai cru jusqu'à présent, comme Viat, que l'homme était...
un roseau pensant.
Non, qui était coiffé d'un chapeau et qu'il attendait l'autobus 21 rue de la Glacière. Mais il ne faut pas en rester là. Il y a du nouveau sur l'homme, c'est que l'homme fait des découvertes tous les jours. L'homme s'instruit tous les jours. Par exemple, l'homme vient de découvrir, là, ces jours-ci, que juillet est chaud. En janvier dernier, il avait découvert que l'hiver, il neige, et que la neige est peu propice à la circulation autoroutière. Donc, je suis absolument ravi de découvrir que la connaissance de l'homme par l'homme fait des progrès tous les jours.
Ça fait un peu penser aux quatre problèmes de l'agriculteur soviétique, oui. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Donc, et alors, simplement, il faut dire que les orages ne font pas bien le boulot, puisque j'ai entendu que cet après-midi, enfin cette nuit, des arbres sont tombés sur des tentes, et que ça a provoqué une tragédie, et tout le monde est triste, alors que si c'était, ça s'était passé à Paris il y a quelques jours...
Vous parlez de Manier Prade, là, avec ces arbres sur les tentes.
Eh bien, tout le monde aurait été content, mais non, c'est trop tard. Si vous voulez tomber sur les tentes, messieurs les arbres, il faut choisir votre jour. Voilà.
Enfin, de toute façon, pour aller au boulot le matin avec le cœur léger, il vaut mieux ne pas écouter les informations. Parce que tu prends un tel déluge de catastrophes. Il y a toujours des catastrophes. Oui, entre les intermittents, les gars de M. Beauvais qui arrêtent le Tour de France,
la pluie,
la sécheresse, la pluie, le truc. Ce sont des gens qui sont là pour démoraliser les Français.
Oui, mais en même temps, ce serait assez difficile de faire un journal intéressant en disant aujourd'hui, le Paris-Bordeaux de 8h46 est arrivé à 8h46, il n'y a pas eu d'accident sur la Nationale 10, il n'y a pas eu d'orage tempétueux dans le sud-ouest, et il n'y a pas de grève des intermittents du spectacle. Ce dont d'ailleurs je me contrefonds, je vais en dire un mot. Alors d'abord je présente les invités, donc vous avez reconnu la voix de Roger Lindre, et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que ou vous vous êtes trompé de radio, ou vous écoutez Radio Courtoisie pour la première fois. Vous allez reconnaître ensuite la voix de M. Bruno Gollnisch. Bonsoir, Monsieur Gollnisch.
Bonsoir, Monsieur de Bekech.
Je suis entouré de l'adorable Victoria.
Oh mon Dieu.
La milliflue Victoria.
Oh mon Dieu.
et du beaucoup moins...
Appelez-le Serge, restons simples.
Et du beaucoup moins adorable Goffman.
Bonsoir Serge de Beckett, et bonsoir à nos auditeurs, les innombrables, dans le monde entier et au-delà.
Vous avez même vous aussi remarqué qu'il fait chaud, au moins en plein juillet, ce qui est un renversant.
Il fait quand même un peu chaud. Oh, allez, il y a de la bulle, là.
Nous
sommes contre les extrêmes. Excusez-moi, Serge, je voudrais couper en quelque sorte la parole.
Oui, premier avertissement. Vous connaissez l'histoire du cow-boy, non? Non, mais je vais vous raconter l'histoire du cow-boy. C'est un cow-boy qui va chercher une jeune épousée à la gare. Et, parce qu'à l'époque, on achetait, on faisait venir des jeunes épousées par le train.
Et, c'était l'époque victorienne, je crois.
C'était l'époque victorienne.
N'est-ce pas victorienne?
C'était son règne.
Voilà.
Et donc, il l'a fait monter en groupe. Et ils partent, et il lui dit la ferme est à une journée de marche. Alors, au bout de 2 heures, le cheval trébuche. Et le cow-boy dit au cheval, premier avertissement. Encore 2 heures, le cheval trébuche. Et le cow-boy dit, deuxième avertissement. Puis 2 heures plus tard, le cheval trébuche de nouveau. Le cow-boy descend, fait descendre sa femme, et met une balle de revolver dans la tête du cheval, qui s'effondre mort. Et à ce moment-là, la femme dit au cow-boy, mais enfin, vous êtes complètement fou, on est encore au moins 3 ou 4 heures de marche de la ferme, vous allez me faire marcher pendant 4 heures dans le désert sous cette chaleur, mais vous êtes dingue, mon vieux, il faut pas faire des choses. Et il lui dit, premier avertissement.
Voilà. Oui, mais c'était des époques viriles. Ceci est totalement révolu.
Tandis que maintenant, ce sont des époques féminines et métissées. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on a eu un 14 juillet particulièrement coloré cette fois-ci. C'est peut-être ça qui explique la chaleur, ou c'est peut-être la chaleur qui explique ça. J'ai remarqué que les télévisions et radios n'ont interviewé ou interrogé que des borrettes soldates.
Oui. Hein,
et quand même que, l'Assemblée nationale était décorée de 14 portraits de beurrettes Marianne.
Oui.
Myriam.
Oui, je trouve qu'ils en font un peu trop.
C'est un peu beaucoup, peut-être, non?
Oui, un peu trop, mais non,
moi, j'ai rien contre.
Oui, le problème, c'est qu'ils en font trop. Ce sont des imbéciles, là. Ah. Ce sont des imbéciles. Les gens qui nous gouvernent sont des imbéciles. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, mais on parlera tout à l'heure, peut-être, de l'année de l'Algérie en France, et puis j'ai un communiqué à signaler au sujet d'un film qui vient de passer sur l'Indochine.
Oui, j'ai lu le papier de Sander dans Présent, effectivement. Moi, j'ai pas vu parce que je regarde plus la télévision, mais je trouve que Sarkozy ressemble de plus en plus à Mandel, d'ailleurs, parce que Mandel aussi écrivait un petit peu, hein, Mandel qui était le secrétaire de Clémenceau, et c'était Clémenceau qui disait il est très bien ce petit Mandel, quand je pète c'est lui qui pue. Et je trouve que Sarkozy joue assez bien ce rôle vis-à-vis de Chirac en ce moment, notamment avec le flop du référendum en Corse. Et autre plaisanterie intéressante.
Ça donne la juste mesure de l'élégance de Clémenceau, s'il faut dire quand même au passage.
Oui, mais de toute façon, qui se ressemble, ça semble.
C'est lui qui trouvait que le meilleur moment de l'amour, c'était quand il montait l'escalier. J'ai longtemps médité cette remarque que vous n'avez toujours pas comprise, ou alors je me fais du souci pour lui.
C'est un problème de précocité, c'est tout. Donc, je voulais poser une question aux auditeurs. Parce que il s'est passé quelque chose de curieux. Oui, ma petite femme me dit, as-tu entendu à la radio? J'écoute la radio toute la journée, j'ai pas entendu ça, donc ça a pas dû passer beaucoup. On a parlé d'un véritable réseau qui se serait déroulé dans le 16e arrondissement contre les gens qui allaient assister au feu d'artifice.
Oui, je l'ai entendu une seule fois.
Des bandes venues de banlieue.
Oui. On raquettait, arrachait les sacs,
voilà.
Arrachait les portes.
Et puis, alors, si quelqu'un a des informations là-dessus, j'aimerais bien qu'il nous les fasse connaître, un auditeur, encore que comme on est assez mal entendu dans le 16e, peut-être que quelqu'un qui aurait provisoirement immigré du 14e dans le 16e pour voir le feu d'artifice pourrait nous raconter ce qui s'est passé.
Je peux ajouter, moi, Serge, qu'ils ont été mis à la raison rapidement. Il y a la moitié de la bande, soit une quinzaine de voyous qui ont été arrêtés assez rapidement.
Et libérés dans les 5 minutes, bien entendu. Ouais.
Je peux ajouter aussi sur le mode plaisant que moi-même, à 2h du matin, cette nuit-là, un voyou de banlieue m'a demandé une cigarette, et puis quand je lui ai dit non, il s'est rappelé qu'il était tout seul, alors il a passé son chemin en grinçant des dents. Et en marmonnant des insultes patriotiques sûrement, et fraternelles, et métissées.
Alors, on va parler tout à l'heure du livre de Bruno Gollnisch. Ensuite, on parlera du livre de Roger Olyndre, Israël-Palestine, assez de mensonges. Le livre de Bruno Gollnisch, c'est un livre d'entretien avec Richard Haddad, dont le titre est superbe. D'ailleurs, la réaction, c'est la vie. Je trouve que c'est tellement vrai et tellement oublié que si les choses avancent, c'est uniquement par réaction, que c'est bien de l'avoir rappelé.
Ben, sincèrement, je me suis aperçu après coup que Maurras avait dit quelque chose de semblable, oui. Ce qui prouve que ni le novice sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, sous le soleil de la droite nationale, apparemment.
C'est pas très très surprenant qu'il y ait quand même des
oui, qu'il y ait des points de convergence. Des points de convergence. Non, non.
Mais là, je voudrais m'adresser aux Lyonnais, parce que j'ai entendu parler d'une histoire bizarre à propos de Monsieur Millon, qui a été condamné à rembourser des avantages
en nature,
indûment perçus.
Oui, que j'avais toujours personnellement considéré comme abusif. Je dois dire que il s'agissait d'un logement de fonction et puis du personnel y attenant ou y afférent à Lyon. Alors que le siège du conseil régional est à Charbonnières, qui n'est pas très distant, mais qu'il y a à Charbonnières une maison dont la seule réfection du toit avait coûté, sous le prédécesseur et mentor de Charles Millon, Charles Béraudier, 4 millions de francs. Ce qui m'avait conduit à dire à l'époque que j'avais proposé qu'on diminue cette somme par deux, en disant à Charles Béraudier à l'époque que il s'était sans doute inspiré de ce célèbre temple de Kyoto qui s'appelle le Kinkakuji, le temple du pavillon d'or, ainsi appelé parce que son toit est recouvert de feuilles d'or, et que je lui demandais, en diminuant la somme par deux, de se contenter du Ginkakuji à l'autre bout de la ville, temple du pavillon d'argent dont le toit n'est recouvert que de feuilles d'argent.
C'est pour les minables.
Je pense que la question aurait dû s'opposer à cette mesure. Je ne dis pas qu'il y ait eu de malversation grossière, en ce sens que...
Surtout Béraudier, comment penser
tout ceci... Béraudier, je ne me porterai pas garant, non plus d'ailleurs que de millions, mais enfin, en l'occurrence, tout ceci s'était passé coram populo, et l'élu écologiste qui est à l'origine de la procédure avait trouvé ça très bien tant qu'il gouvernait la région avec Charles Millon. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement contestable, et ma foi.
Ce qui est amusant, c'est que finalement, dès qu'on soulève une pierre dans la politique française, on trouve des sales bêtes dessous. On a l'impression qu'il devient absolument impossible de mettre le nez dans quelque affaire politicienne que ce soit, sans tomber sur une malversation.
Ceci étant, ce n'est qu'une...
trop perçu.
Ceci dit, non pour dédouaner Charles Millon, mais ce n'est qu'une goutte d'eau comparé aux 20 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie, c'est-à-dire 14 milliards de centimes que se fait verser M. Jean-Marie Messier après avoir ruiné les actionnaires et été à l'origine de la déconfiture de Vivendi, autre nom d'ailleurs qui sert de paravent ou de virginité retrouvée à une entreprise qui a été le phare de la corruption en France.
Bon, alors, c'est la Générale ou la Lyonnaise, je me rappelle.
Je ne sais plus laquelle des deux, elle se dispute la palme, en tout état de cause.
Mais d'ailleurs,
je crois que c'est la Lyonnaise.
Le truc consiste à changer de nom, c'est un vieux truc de truand.
Oui.
Et bon, dans le temps, c'était assez courant.
Un tel alias, voilà. Oui.
Mais maintenant, c'est adapté à la vie politique. C'est-à-dire que, par exemple, le RPR, quand ils sont quand ils commencent à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de casseroles avec les affaires de Paris, des HLM, des choses comme ça, alors ils décident de s'appeler l'UMP.
Oui, le Parti Républicain qui devient Démocratie Libérale.
C'est ça. Oui. Avant, il faut dire
l'UDF
que
l'UDF qui devient Force Démocrate. Oui.
On a eu l'UDR, qui était l'ancêtre l'UNR d'abord, qui a été compromis dans des affaires tellement pourries qu'ils se sont appelés autrement l'UDR, je crois. Ensuite, ils se sont appelés l'URPR, et puis ça a continué. Maintenant, ils s'appellent l'UMP. Je pense qu'ils doivent chercher une nouvelle appellation pour la prochaine fois. Mais est-ce que dans le cas de Millon, on ne peut pas se dire que cette affaire d'avantage indue à hauteur de 350 000 euros, quand même, c'est pas 3 sous.
Oui, 2 millions de francs, oui.
Hein, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça ressemble quand même à un règlement de compte ou coup de pied de l'âne après, non, après l'affaire du Conseil
oui, c'est
régional.
C'est un règlement de compte, bien sûr. C'est un règlement de compte, c'est ce que je dis. L'élu écologiste qui a soulevé la question, M. Tête, qui d'ailleurs devrait vérifier s'il a derrière propre avant de monter au mât de cocagne, puisqu'il s'est lui-même retrouvé condamné pénalement pour avoir abusé des acédiques qui finançait indirectement son militantisme.
C'était un intermittent de la politique, en somme.
Celui-là, en tout cas, oui, en quelque sorte, celui-là s'accommodait très bien de Charles Millon, quand Charles Millon ne refusait rien aux socialistes ni aux Verts, sur lesquels il comptait pour faire la pointe de sa majorité qui n'était que relative à l'époque. Et c'est quand Charles Millon, désespoir de cause, a été réélu avec nos voix qu'on lui a trouvé tous les péchés du monde. Mais moi, j'ai voté pour Charles Millon, non pas par appréciation particulière de sa personne ou de son action. J'ai voté pour Charles Millon, depuis des critiques très sévères que j'avais formulées sur sa gestion, parce que je considérais que c'était un moindre mal par rapport à une prise de pouvoir en région Rhône-Alpes par une direction socialo-communiste. Je dois dire que nous avons été extrêmement mal récompensé de cette attitude patriotique. Je rappelle à ceux à qui on va encore une fois en 2004 servir l'argument éculé selon lequel le Front National est là pour faire passer la gauche, que nous avions proposé de faire battre la gauche dans toutes les régions de France, et elle pouvait être battue dans 22 régions de France sur 23. Puisqu'elle ne disposait que d'une majorité absolue que dans le Nord-Pas-de-Calais, et que le Front National a fait effectivement élire un certain nombre d'exécutifs de droite, parlementaires, de la droite courbe. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait de mieux, mais enfin, nous l'avons fait, et nous étions prêts à le faire dans beaucoup d'autres endroits, et celui qui s'est mis en travers et a ordonné aux élus RPR et UDF de remettre les clés des régions aux socialo-communistes pourtant minoritaires dans ces régions et de se priver du soutien du Front National, c'est Jacques Chirac, par une démarche tout à fait ahurissante, qui a consisté, pour un chef de l'État en exercice, à prendre position dans l'élection des présidents et vice-présidents de collectivités locales.
À ce propos, d'ailleurs, j'avais une idée en ce qui concerne l'impunité du président de la République. Moi, je trouve tout à fait défendable qu'on dise l'immunité du président. Pendant son exercice de sa charge, il ne peut pas être attaqué, il ne peut pas être poursuivi. Après tout, pourquoi pas? Comme de toute façon, il ne sera jamais poursuivi, autant formaliser tout ça par une loi. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une contrepartie, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir dire exactement ce qu'on pense de lui sans risquer de procès.
Bien sûr.
C'est-à-dire dire, écoutez, on a un président de la République qui est un voleur, qui est un corrompu. Il ne peut pas être poursuivi parce qu'il est voleur et corrompu. Il faudra attendre qu'il ne soit plus président de la République. Mais lui, il faudra qu'il attende de ne plus être président de la République pour poursuivre les journalistes qui disent qu'il est un voleur et un corrompu. Ça serait une espèce de justice, non?
C'est en effet la contrepartie normale.
On va essayer, on va voir si ça marche. Je ne suis pas absolument certain que ça va marcher, mais on peut toujours essayer. Cela dit, quand vous dites, Bruno Lemich, que le Front National a fait passer plusieurs représentants de l'exécutif de la droite courbe, et qu'on peut se demander si ça a été un bon choix, effectivement, quand on voit ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale avec le vote de la loi sur l'expulsion des délinquants étrangers, faussement appelée double peine.
Oui, mais il se trouvera encore dans les milieux bourgeois des gens qui nous diront « Ah, quand même, Sarkozy fait quelque chose ». La loi sécurité de Sarkozy, d'abord, ça procède de la technique de l'apparence, qui est très française, qui consiste, quand des lois ne sont pas appliquées, à en faire de nouvelles, qui ne sont pas plus appliquées que les précédentes. Elle s'est attaquée à des aspects absolument dérisoires de l'insécurité. Je rappelle qu'ils sont au nombre de trois. Le racolage passif, les dames qui montent leurs cuisses, et même un peu plus. je conçois qu'on batte le racolage, les lois actuelles le permettaient déjà, l'intrusion de nomades sur des propriétés privées et la mendicité agressive. Mais à aucun moment on ne s'est demandé d'où venaient ces prostituées, d'où venaient ces nomades et d'où venaient ces racketteurs. Il est clair que la plupart d'entre eux viennent des pays de l'Est européen, et quand on poursuit parallèlement, ce qui est le cas du gouvernement, l'élargissement de l'Europe à ces pays, il faut que chacun sache que les ressortissants de ces pays, à commencer par les nomades, en passant par les prostituées et autres, auront, de par l'effet automatique des traités européens, le droit non seulement de venir dans notre pays, mais de s'y établir, et qu'ils auront vocation, par là même, à bénéficier de l'intégralité de notre système social. Bon, Sarkozy est servi d'une certaine façon dans cette affaire par les criailleries des associations de gauche ou d'extrême gauche. C'est un balai parfaitement réglé.
Ou de droite, excusez-moi, mais droite, vous savez que M. Étienne Pinte, maire, député maire UMP de Versailles, a créé une association spécialement pour lutter contre la double peine.
Oui, parfaitement. J'avais assisté, j'étais d'ailleurs l'un des très rares spectateurs à avoir assisté au débat parlementaire sur ce sujet, où la proposition de la gauche visant à supprimer ce que l'on appelle d'ailleurs à tort la double peine, parce que les batailles politiques sont des batailles sémantiques. On appelle ça la double peine. Alors évidemment, quand les gens entendent parler de la double peine, ils se disent ah ben c'est pas juste. S'il y a des Français qui sont condamnés pour un crime ou un délit, ils sont condamnés à une peine, et les étrangers ils sont condamnés à deux peines. Il y a là une injustice. En réalité, ce qu'on appelle à tort la double peine, c'est la très légitime expulsion des criminels ou des délinquants étrangers qui se pratique dans tous les pays du monde et qui désormais ne pourra plus se pratiquer de la même façon en France. C'est une grande victoire pour la gauche, et tout ceci sous couvert d'un projet pour lutter contre les abus de l'immigration et qui se contente de quelques mesurettes, toujours sans s'occuper des causes.
En plus, la décision, le choix de supprimer une, si on veut supprimer la double peine, ça veut dire supprimer une des deux peines. Et à ce moment-là, il y avait deux possibilités. Ou on supprimait l'expulsion des délinquants étrangers, où on supprimait la sanction judiciaire des délinquants étrangers en disant vous avez commis un délit, nous on ne va pas mobiliser la police française, la justice française, les prisons françaises pour vous condamner, on n'en a rien à foutre, on vous prend par la peau du cul, on vous renvoie chez vous et vous vous débrouillez avec les autorités de votre pays. Et si on attrapait par exemple un arabe du Moyen-Orient en train de voler et qu'on le rende à la police d'Arabie Saoudite en disant tenez, on vous a attrapé un voleur et on vous le rend, et que les gars disent ben, on va les faire. On va appliquer nos lois à nous, qui consistent tout simplement à lui couper d'abord la main gauche, par humanité, puis ensuite il recommence la main droite, par nécessité. Je pense que ça serait assez dissuasif. Et là, on ne pourrait plus être accusé de pratiquer la double peine.
Je pense même que la seule expulsion, d'ailleurs, c'est la seule mesure que redoutaient véritablement les voyous.
Voilà,
l'expulsion dans leur pays d'origine. On parle de, là encore, de double peine, c'est absurde. Par exemple, quand un Français qui est employé de banque, par exemple, détourne l'argent de la clientèle, ça arrive rarement, mais ça arrive quelquefois, il est condamné d'abord à une sanction pénale. Et il fait de la prison. Souvent, la prison s'ajoute une amende. C'est une ou deux peines. Bon. Ensuite, il est condamné à une interdiction professionnelle. On lui interdit l'exercice de profession financière. C'est une troisième peine. Ensuite, il est interdit de se présenter aux élections. Il est déchu de ses droits civiques.
Et même, voire de voter.
Et de son droit de vote, ce qui lui fait perdre d'ailleurs son mandat s'il est élu par ailleurs. Bon, ça, c'est une quatrième peine.
Et souvent, il est déchu de ses droits familiaux. C'est nouveau, ça.
Quelquefois, il est déchu de ses droits familiaux, ce que j'estime d'ailleurs abusif. Ouais. D'ailleurs, parce que là, on s'aperçoit que ces sanctions qui sont 10 fois plus sévères que la peine principale sont appliquées à titre complémentaire, ce qui peut conduire à tous les arbitraires. Là, c'est l'ancien avocat qui parle. Cinquièmement, il est condamné à rembourser. Il y a des sanctions civiles, voire à des dommages-intérêts par rapport au client qu'il a spolié, ou à l'établissement qui l'employait. Et sixièmement, bien sûr, il perd son emploi. c'est une sanction professionnelle. C'est-à-dire que pour un même délit, il y a 5 à 6 peines qui s'appliquent. Par conséquent, il n'y avait absolument aucune injustice, encore une fois, à ce que les délinquants ou criminels étrangers soient renvoyés dans leur pays d'origine. Mais vous parlez, vous parliez, Serge de Baquet, de la possibilité de les renvoyer dans leur pays et qu'ils accomplissent leur peine dans leur pays d'origine. Je signale que ceci est parfaitement prévu par le droit international. Quand je siégeais avec Roger Olyndre à l'Assemblée nationale de 86 à 88, j'étais membre à ce moment-là, moi, de la Commission des Affaires étrangères. Et la Commission des Affaires étrangères examinait évidemment tous les traités qui étaient soumis à ratification, une ratification qui doit être autorisée par le Parlement. Et on voyait fréquemment passer ce que l'on appelle des conventions de transfèrement. Qui sont des conventions qui sont prévues pour que des gens qui ont une nationalité étrangère et qui ont été condamnés dans un pays qui n'est pas le leur effectuent leur peine dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait que dans un sens. C'est-à-dire que la France se préoccupait de récupérer les criminels ou délinquants qui étaient condamnés, français, condamnés dans des pays étrangers, parce qu'on dit beaucoup de mal de notre système pénitentiaire, mais celui de certains États étrangers est bien pire. C'est-à-dire qu'on passait des conventions de transfèrement avec la Thaïlande pour récupérer les trafiquants de drogue français qui avaient été condamnés à Bangkok. On passait des conventions de transfèrement avec le Maroc, avec Djibouti, pour récupérer les malfrats français qui avaient été condamnés dans ces pays. Jamais on ne passe de convention de transfèrement pour que les ressortissants étrangers condamnés chez nous effectuent leur peine dans leur pays d'origine, ce qui éviterait d'avoir à leur courir après ensuite précisément pour procéder à leur expulsion.
Mais dites-nous, Maître Gollnisch, puisqu'en effet vous êtes juriste de formation, est-ce que les mesures très anciennes et habituelles d'interdiction de séjour vont disparaître dans la foulée ou être réservées aux nationaux français ?
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que est passé dans l'indifférence totale une réforme de la Constitution qui est passée par la voie du Congrès et qui est s'est passée, Roger Olyndre était là il y a quelques mois à Versailles, par conséquent, puisqu'on y réunit l'Assemblée nationale et le Sénat, avec un double objet. Un premier dont on a parlé un tout petit peu, c'est la fameuse révision de la Constitution sur la décentralisation, qui, à mon avis, est une étape dans le démembrement de la France. Et le deuxième objet, qui lui alors est passé totalement inaperçu, et qui a été voté à une majorité écrasante, c'est le mandat d'arrêt européen. Et ce mandat d'arrêt européen oblige la France, pour la première fois, à extrader ses nationaux, et à les extrader, y compris s'ils sont poursuivis pour des faits que le droit pénal français ne qualifie pas de crime ou de délit. Ah, je trouve que c'est absolument extravagant. C'est d'ailleurs la raison, c'était tellement contraire à nos principes juridiques, que c'est la raison pour laquelle une révision de la Constitution a été nécessaire. Et que ce soit passé dans l'indifférence totale, personne n'a relevé ça. Non. Je me souviens des criailleries du Monde à l'époque où le terroriste communiste allemand Klaus Croissant qui sévissait en France a été expulsé, extradé par les autorités françaises, et à l'époque on réclamait à corps et à cri pour ce complice des Brigades Rouges qu'il reçoive l'asile politique dans notre pays, et là on a une décision ahurissante, mais très symbolique de notre perte de souveraineté, et qui est passée dans une indifférence quasi générale.
Ben, c'est fabuleux, je croyais faire de l'humour, et en fait Bruno Gollnisch nous montre que c'est bien ce qui va se passer. Donc on ne pourra pas expulser les criminels étrangers, mais on devrait...
On peut se demander si les Français se rendent compte de ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays. Parce qu'enfin, c'est maintenant, tous les jours, c'est la révolution permanente. Hein, tout est fait pour que l'État ne puisse pas gouverner. Alors, veut-il gouverner ? On n'en sait pas trop rien, mais tout est fait. Et ça me rappelle, j'ai quand même, pour Paris Match, parcouru des dizaines de fois l'Amérique du Sud, hein, et je me souviens, et ça me vient à l'esprit maintenant, chaque fois que je vois ces oiseaux à la télévision, c'est exactement la conduite de tous ces groupuscules gauchistes, extrême-gauche, dans les pays d'Amérique du Sud. Sud, c'est la révolution pour tout, surtout et tous les jours. Tous les jours, il faut que les Français vivent dans la crainte de ceci et de cela. Et comme les gars de la radio et de la télé en remettent, hier, avant-hier par exemple, c'était le défilé du 14 juillet, eh bien, on nous a encore parlé du président de la République stoïque sous les rafales. Enfin, il y a un cocu qui a tiré 2 balles de 22 longs rifles l'année dernière. Il faut quand même savoir ce que ça a pu nous coûter cette année. Est-ce que les Français pensent que pour qu'on fête la fête nationale, pour que notre armée défile sur les Champs-Élysées, il faut 4000, 5000 ou 6000 policiers? 4000, 5000 ou 6000, il faut parquer les gens dans des enclos de 1000 ou 1500 personnes. C'est ça la liesse populaire. Mais tout ça, ça passe comme une lettre à la poste.
Je rappelle souvent qu'on pouvait rentrer à Versailles comme on voulait, assister à la vie du roi, si on avait les moyens de louer un chapeau et une épée à l'entrée, parce qu'il fallait être armé pour s'approcher du roi.
Mais réciproquement, si on lui donnait un coup de canif, on était écartelé.
Oui, mais je suis pas contre le fait que la police fasse son travail et que le chef de l'État soit protégé. Mais enfin, ils ont même fait un film, un documentaire, L'homme qui a tiré sur le président. Il faut quand même se souvenir que l'année dernière, il y a un de ces chiens de la télé qui a dit, en parlant de cet attentat bidon, le président de la République stoïque sous les rafales. Les rafales de quoi? Les rafales de quoi? Mais on croit rêver, mais quand on discute de tout cela avec les Français, on peut quand même se poser la question, est-ce que le présent et l'avenir de notre pays les intéressent encore? Parce que, enfin, faut voir un peu.
Je suis rentré
du château pour cette émission, puisque j'étais là-bas pour préparer la journée Indochine du 27 juillet. Il fallait voir quand même la cohue pour les départs de Paris. Mais ça aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? Mais qu'est devenu notre peuple? Le jour prévu, à l'heure prévue, tout le monde se barre en vacances. C'est juste s'il se passe pas les uns sur les autres. Les mecs viennent avec la bagnole chargée au bureau pour partir directement. Partir où? Au soleil. Ah, le soleil. Ben là, ici, ils s'en servent, là. Ils en ont du soleil. Mais pourquoi ils vont pas s'installer au Sahara, tout ça, mec. Ils auraient du soleil.
Attends, c'est pas la peine pour l'instant, c'est le Sahara qui vient s'installer chez nous.
Non, mais enfin, c'est tout notre peuple est conditionné.
À propos de s'installer au Sahara, je voudrais faire. Et puis, à propos des questions, justement, d'expulsion, de deuxième peine et autres. Pardon. Je voudrais lire une suggestion que nous envoie un auditeur-lecteur. Une idée française généreuse et simple à mettre en œuvre est la création en Afrique, disons à la jonction de l'Afrique noire et du Maghreb, d'agglomérations, au moins pourvues d'un bon confort, véritable camp de dispersion. On voit là clairement la nouveauté du concept, où se retrouveraient tous ceux, avec papier ou non, que l'aurait son gouvernement ont persuadé que le territoire français était un paillasson, et les Français contemporains, le résidu métissé d'un peuple évaporé. Les intéressés seraient là-bas chez eux, puisque naturellement, selon la pose qu'on leur a fortement suggéré de prendre, ils ont complètement oublié d'où ils sont originaires. Un article du règlement intérieur rappellerait à chacun le droit inaliénable de quitter les lieux à tout moment, sans oublier bien sûr le tarif carcéral applicable à ceux qui tenteraient de se remontrer en France. Les incarcérations éventuelles en question se feraient, cela va de soi, hors de France, justement dans les agglomérations de dispersion en question. Détail, les résidents de ces agglomérations en condition de travailler devraient le faire dans des ateliers ou autres emplois fournis sur place. Ça me paraît une bonne idée, ça, non? Créer des camps de dispersion, on pourrait pas, on peut pas être accusé de quoi que ce soit de mal, hein.
C'est-à-dire des établissements d'accueil et de dispersion.
Et de dispersion, voilà. Oui. Et donc, on prendrait les gens qui en France se conduiraient mal, on leur dirait, on va vous conduire dans un établissement d'accueil et de dispersion, non, vous pourrez vous disperser dans les directions de l'espace à l'exclusion de la France.
Bon, il est évident qu'il faut que force reste à la loi. Et que quand on voit des pantalonnades navrantes comme chez moi dans le Rhône, ou 7 ressortissants algériens qui étaient là de fraîche date et dont le préfet disait lui-même qu'il n'avait aucun titre à rester en France, après quelques grèves de la faim et le tam-tam habituel
de votre compatriote Tavernier,
bien sûr, ont finalement tous été admis à rester en France, alors que leur cas avait été examiné, leur recours avait été jugé, les recours sur les recours, etc. On a là des situations tout à fait grotesques. Et si il faut évidemment que des gens soient expulsés, et il faut qu'ils soient détenus quelque part avant d'être expulsés, sinon on peut pas leur mettre la main dessus. Ce qui est extravagant, c'est que cette seule affirmation vous expose immédiatement à la critique. Vous nous rappelez les heures les plus sombres de notre histoire, vous voulez faire des camps, etc. À ceci près que je rappelle que les camps de déportation, ça consistait à arracher des gens à leur domicile pour les transporter justement contre leur volonté à l'étranger.
Tandis que
de faire en sorte que des gens soient rapatriés dans leur pays d'origine et dans leur domicile d'origine ne peut en aucune façon être assimilé évidemment à ces pratiques.
Oui, mais enfin, quand on voit l'information telle qu'elle est faite dans notre malheureux pays, quand on voit que l'État a toujours tort, quand on voit que des flics arrêtent des gens qui sont en situation irrégulière, mais que par hasard et bizarrement, ils ont toujours oublié quelque chose, enfin qu'on leur apprenne leur boulot. Parce que si les juges de gauche réussissent toujours à faire libérer les gens que les flics arrêtent, c'est parce que les flics ne font pas bien leur travail. S'ils doivent déclarer ceci ou cela, faire des rapports, remplir des papiers, mais qu'ils les remplissent. Parce que tout ça, ça amène de l'eau au moulin des honneurs. Tout ce qui se passe dans les banlieues, ça amène de l'eau au moulin des honneurs. Lorsque le gars, le jeune de banlieue, hein, qui ne veut pas s'intégrer, qui considère que la France est une marâtre et je suis poli, ben, il trouve ça, comme je disais dans le dernier communiqué hein, du Cercle National des Combattants, hein, Léviette disait quand on n'avait pas le moral, on lisait la presse parisienne et on reprenait le moral. L'Eiffel disait exactement la même chose. Hein, nous avons été 10 fois, 15 fois, 20 fois hein, à deux doigts de perdre le moral, la presse parisienne nous remontait le moral. Eh bien, les jeunes des banlieues, tout ce qu'ils reprochent à la France, c'est dans la presse française qu'ils le trouvent. C'est pas dans leur presse à eux, c'est dans la presse française qu'ils le trouvent. Et lorsque, par exemple, un journaliste ose écrire, un type à la télé ou à la radio ose dire l'occupation française en Algérie était l'équivalent hein, de l'occupation nazie en France, mais ces gens devraient être arrêtés et passer en haute cour. Comment peut-on comparer la présence française en Algérie avec l'occupation nazie en France? Et de toute façon, quand les nazis sont partis, hein, il n'y a pas 5 millions de Français qui sont partis s'installer en Allemagne. Alors que quand on est parti de là-bas, il y a 5 millions d'Algériens qui sont venus s'installer ici. Alors comment ces gens peuvent-ils vivre chez nous, hein, bouffer chez nous, parce qu'enfin, il n'y a qu'à aller sur les marchés, hein, il n'y a qu'à aller à Sevran, il n'y a qu'à aller à Villepinte, il n'y a qu'à aller à Tremblay en France, qui sont des coins que, hein, quand on les voit faire le marché le samedi, bon, on croirait qu'il y a la famine. C'est des quarts de moutons, des demi-moutons, des 50 kilos de moutons. Hein, alors de quoi ils se plaignent? Il n'y a qu'à voir les marchés de banlieue, la bouffe, hein, la bouffe qui peut être emportée par ces dames. Alors de quoi se plaignent-ils? Et lorsqu'ils disent ça à la télé, mais il n'y a jamais un commentateur télé qui est là, qui leur dit mais un peu de silence. Le commentateur français, s'il est là, il en remet contre la France. Donc tout ça est un cercle vicieux. On ne pourra pas arrêter, hein, on ne pourra pas arrêter cette décadence et cette descente aux enfers. Hein. Et si tu permets, tout à l'heure, je parlerai hein, du film là sur l'Indochine, qui après l'année de l'Algérie en France, pendant l'année de l'Algérie en France, dépasse tout ce qui est pensable.
Mais l'exemple vient de haut. J'ai l'impression que personne n'écoute plus les discours ou les interviews de Chirac à la télé, notamment. l'interview du 14 juillet.
Ah, je l'ai écouté avec attention.
Ça a été quand même assez prodigieux.
Moi aussi, je l'ai écouté,
voilà un homme
je l'ai regardé,
dit,
c'était de l'eau chaude.
Non, non, il n'y a pas que ça. Il dit des choses très, très importantes. Il dit, la priorité du gouvernement, c'est la lutte contre la violence. Parce que la violence est injuste, qu'elle est inutile et qu'elle est porteuse de malheur, etc. Mais l'homme qui parle de ça, il dit au nom du droit et au nom de la République. Bon, la République, elle est née comment en France? Elle n'est pas tombée du ciel, c'est pas le bon Dieu qui nous en a fait cadeau. Elle est fille de violence. La République, elle est née dans la terreur. Donc on vit aujourd'hui dans un système politique, un régime politique, qui est né dans le sang, qui est né dans la terreur. Comment peut-il après s'appuyer là-dessus pour interdire l'accès à la violence? Et d'autre part, quand il dit, quand il s'emporte contre les Corses qui ont assassiné le préfet Irignac, on comprend parfaitement, effectivement, que ça soit scandaleux d'assassiner un préfet pour imposer l'indépendance de son pays ou de son île à laquelle on est attaché, ce qui est le cas des indépendantistes corses. Mais de quel droit un gaulliste vient-il reprocher ça à ces gens-là, puisque les gaullistes ont toléré, non seulement toléré le recours à la violence, mais encouragé le recours à la violence pour que les Algériens obtiennent l'indépendance. Et quand Chirac vient nous dire que les terroristes corses sont des assassins, c'est 5 mois après avoir reçu en grande pompe à l'Élysée Bouteflika. Quelle est la différence entre les assassins du préfet Irignac et les fellahas qui tuaient des officiers, des administrateurs français?
Bouteflika, qui à l'Assemblée nationale a fait le procès de la
voilà,
France.
Exactement. Hein? Alors, de quel droit Chirac tient-il ses propos? Il sait très bien, Chirac, il sait de façon certaine que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, les assassins du préfet Erignac seront libérés et 3 ans plus tard, ils seront ministres plénipotentiaires de Corse et ils viendront discuter d'égal à égal avec le gouvernement français. On le sait très bien. La décision est prise de donner son indépendance à la Corse d'une manière ou d'une autre à échéance parce que c'est une exigence de la mafia mondialiste. Tout le monde le sait. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'on puisse assister à un mensonge aussi scélérat.
Il est bien sûr qu'il est certain que ce référendum était totalement inutile. Hein. Les 3/4 des Corses veulent 85 ou 90% des Corses veulent rester français. S'ils avaient voulu faire quelque chose d'intelligent, il n'y avait qu'à poser une question simple. Hein. Voulez-vous être français, oui ou non? Voilà, c'était clair.
Hein.
Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils auraient eu 95%. Ils auraient eu 95% de oui.
Si les référendums servaient à poser des questions intelligentes, depuis le temps, ça se saurait.
Parce que ces indépendantistes corses, c'est pas parce que je suis à la radio à Paris que je dis ce que je vais dire. Je l'ai dit à Ajaccio, à la télévision, à Ajaccio, en plein midi, à 13h exactement, quand je suis sorti de la télévision. Tout le monde se barrait, personne ne m'a serré la main quand je suis sorti de la télévision. J'ai dit, je n'ai aucun respect pour les indépendantistes corses parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de la France, mais ils seront respectables le jour où ils diront, nous ne voulons ni de la France ni de son argent. Ce jour-là, ils seront respectables.
Ce que je veux dire, Roger, c'est que on ne peut pas reprocher à ces gens-là d'avoir cette attitude alors qu'on la tolère parfaitement de la part des Algériens. Les Algériens ont tué pour avoir l'indépendance. Ils n'ont tué pas un préfet, ils ont tué des milliers de Français. Et ils ont obtenu l'indépendance. Et une fois qu'ils ont eu l'indépendance, ils ont gardé le fric, ils ont gardé les aides, et ils ont continué à nous envoyer toute leur racaille et tous leurs inutiles en France. C'est quand même... Ils continuent encore maintenant. Enfin, c'est quand même extraordinaire. De quel droit va-t-on reprocher à quelques voyous corses de vouloir faire ce que des voyous algériens font depuis 40 ans? Moi, je comprends pas. C'est totalement incohérent. Donc, c'est un mensonge.
C'est comme si je demandais le divorce et que le lendemain, j'allais m'installer chez ma femme et que je me serve dans son frigo.
C'est ça. C'est exactement ça.
Drôle de conception de l'indépendance.
Alors, je voudrais reposer une question à Bruno Gollnisch à propos de Lyon. On parle beaucoup de Père Ben, des intentions ou des ambitions de Père Ben. À la mairie de Lyon.
Oui.
Vous avez des informations là-dessus?
Oui. Monsieur Père Ben, qui est ministre de la Justice et qui est maire de Châlons, est venu récemment à Lyon dans une grande messe avec les cadres de l'UMP et a annoncé en pratique qu'il sera candidat à la mairie de Lyon. Il est là, en réalité, pour essayer de mettre d'accord les composantes de l'UMP qui s'entre-déchirent. Je trouve assez étonnant qu'on ne trouve pas, pour une fois je suis d'accord avec Michel Noir, qu'il ne puisse se trouver un candidat acceptable dans les rangs de la formation gouvernementale, un candidat lyonnais acceptable à la fonction de premier magistrat municipal. Mais il est vrai que la droite lyonnaise, par ses bêtises, par ses divisions, par son refus de s'entendre avec le Front National et par l'ostracisme qu'elle pratique à l'égard de ceux qui ont essayé, si peu que ce soit, oh mon Dieu, comme Charles Millon dont on parlait tout à l'heure, et cette fausse droite est directement responsable de la prise de la ville de Lyon par le socialo-communiste et franc-maçon Gérard Collomb.
Est-ce que vous avez, justement, puisque vous évoquez le problème, enfin vous dites, vous employez le mot franc-maçon, est-ce que vous avez un exemple, à part Barre, sur lequel je n'ai pas d'information, d'un maire de Lyon qui n'ait pas été franc-maçon?
Non, je crois. Et il paraît, aussi surprenant que ça puisse paraître, que Hériot lui-même ne l'était pas, mais tout son entourage l'était. C'était aussi le cas de l'entourage de Francisque Collomb.
Oui.
Je crois que c'est pas un certain nombre de loges.
C'est la maçonnerie qui fait la mairie.
Totalement. Il suffit d'évoquer la question dans un conseil municipal, comme je l'ai fait dans le passé, ou plus récemment au conseil régional Rhône-Alpes, pour voir que à ce moment-là.
Les signaux de détresse.
Ah oui, absolument. Et puis une espèce d'hystérie s'empare de l'Assemblée qui à ce moment-là excommunie l'audacieux qui a osé poser le problème. Alors que nous avons assisté à Lyon récemment à une grand-messe pour le 275e anniversaire. Je ne sais pas quelle est la symbolique particulière qui s'attache à cette date.
Peu compliqué. Il y a une symbolique particulière, mais un petit
doute,
peu compliqué à exposer.
Oui.
C'est pas 5 x 5 multiplié par 11. C'est donc le 5 a une valeur symbolique donnée, 11 aussi, 11 c'est la perfection gâchée, c'est la perfection fissurée, puisque 10 c'est la tétractice, enfin, etc. Et 5 c'est l'homme, parce que c'est les 5 membres, comme disent les maçons, y compris la tête, qui est considérée comme un membre.
Ah oui.
Et les 5 sens, et
cette occasion-là, etc. On a eu droit à une réception grandiose à la mairie de Lyon, à un message de Jacques Chirac, qui n'est plus un message de chef d'État.
Je l'ai publié dans le Libre Journal.
Je l'ai lu intégralement. C'est ahurissant.
Mais celui
qui est un message d'affidé, d'initié.
Boer a dit d'ailleurs. Jamais Chirac ne nous a manqué.
En revanche, quand on évoque le problème, même sur un ton relativement modéré comme je l'ai fait, au Conseil régional en disant qu'il serait assez naturel que les membres d'organisations qui représentent entre 0,1 et 0,2% de la population française, mais qui occupent des positions 100 fois plus importantes proportionnellement dans les plus hauts niveaux de l'administration, de l'économie ou de la magistrature, révèlent leur appartenance.
Et de l'armée, et de la police.
De l'armée, de la police, etc. Révèlent leur appartenance. Là, on pratique un véritable blasphème.
Mais vous parliez du discours de Chirac, il y a un discours qui est encore plus ahurissant, que je n'ai pas encore publié, mais je vais publier prochainement, c'est le discours de Villepin. Villepin a tenu des propos au ministère des Affaires étrangères quand il a reçu les Mamamouchis de la secte, un discours qui était ahurissant, stupéfiant, où il a rendu hommage aux grands ancêtres maçons de la République, et il les a énumérés, et ça donnait Marat, Guillotin, Hébert, et il citait toute la liste des pires canailles sanglantes de la terreur. Mais c'était stupéfiant, en leur rendant hommage.
Mais...
Il faut lire ce texte.
Je ne saurais trop recommander la lecture du Libre Journal, et en particulier l'analyse qu'il fait, très justement, du mensonge selon lequel... qu'on m'a opposé au conseil municipal de Lyon. C'était l'argument d'autorité. On m'a dit, mais vous ne devriez pas mettre en cause le Grand Orient de France, puisque vous devriez vous souvenir qu'aux heures les plus sombres de notre histoire, là je dis tout de suite, 1793. On a déporté des francs-maçons. À quoi j'ai répondu de façon un peu impertinente, qu'on avait aussi déporté des syphilitiques, et pourtant on continuait de soigner la la vérole. Ce qui, évidemment, a alors, été considéré comme
vous écoutez Radio, oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, Serge de Becquet, je reçois Roger Olindre et Bruno Gollnisch, et je profite de ce que j'ai la parole pour me tourner vers le juriste à nouveau, avec peut-être une question naïve, excusez-moi Serge, vous qui êtes si savant sur la maçonnerie, je voudrais simplement vous demander s'il est légal que des sociétés secrètes est une place, une activité pareille, si même le simple concept de société secrète est légal en France.
Ben, malheureusement, oui, aujourd'hui. Et moi, ce que nous demandons est extrêmement raisonnable. Et je dirais, caution bourgeoise, c'est ce que demande M. Tony Blair en Grande-Bretagne. Tony Blair, qui est quand même un Premier ministre travailliste, c'est-à-dire socialiste. Il est vrai que là-bas, les loges sont plutôt c'est de l'ossature du Parti conservateur. C'est-à-dire, nous demandons simplement que l'on sache qui fait quoi. Chacun a le droit d'avoir ses options philosophiques ou politiques dans notre pays. On peut s'en féliciter, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Personnellement, je ne remets pas en cause cela. Ce que je remets en cause, c'est qu'un justiciable, par exemple, passe en procès contre un adversaire qui est membre d'une loge dont sont membres également le procureur de la République, les magistrats qui vont le juger et qui, en toute rigueur, devraient pour le moins se récuser. Et si simplement ses appartenances étaient connues, eh bien, je pense que les choses changeraient de façon très significative.
Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a eu une tentative de révéler les appartenances maçonniques, notamment quand quelqu'un sur un site internet a balancé les listes de francs-maçons dont il disposait, parce qu'il en circule pas mal, chaque loge ayant son annuaire, quand on peut se procurer les annuaires et qu'on publie les noms, ça provoque pas mal de troubles, et bien là, la justice a obligé le publicateur à supprimer son site. Donc la justice, objectivement, se rend complice de ce qui est une organisation secrète, c'est-à-dire susceptible de dissimuler des choses parfaitement anormales. Alors, l'argument de tous les maçons, c'est de dire, mais on peut pas faire quoi que ce soit de mal, puisque de toute façon, on est complètement noyauté par les flics, étant donné qu'il y a à peu près 9 flics sur 10 qui sont francs-maçons.
Dans la haute administration de la police, oui.
À partir du grade de commissaire.
Oui, hein, oui, parce que le sergent de ville...
Sarkozy a d'ailleurs dit, quand il a reçu les mamamouchis de la secte à la place Beauvau, il a eu une phrase admirable, il a dit... Je tiens à vous dire, chers amis, que la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur. C'est quand même un aveu extraordinaire.
Je me souviens, une petite anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai révélé un certain nombre de documents et qui étaient destinés au ministre de l'Intérieur et qui étaient bien soigneusement cachés aux élus, mais qui m'ont été communiqués. Et dont j'ai donné communication à la presse. Ces documents étaient les statistiques de la criminalité. L'un était le palmarès des 100 mineurs délinquants multirécidivistes du Rhône, les plus actifs, si j'ose dire, des gamins qui sont arrêtés trois fois pour des délits, ou voire même des crimes graves, dans la même semaine. Bon, donc inutile de dire que 95% étaient d'origine étrangère. Le deuxième, c'était une statistique sur une nouvelle forme de criminalité, qui est le tamponnage, qui consiste pour les malfrats maintenant à attendre des voitures de police qui sortent du commissariat pour leur rentrer dedans. Ce qui n'était pas le cas dans ma jeunesse. Ils avaient plutôt tendance à se défiler. Je ne sais plus quel était le troisième. Bref, cette révélation a fait un certain bruit dans la presse locale, et là, le parquet s'est ému. Il ne s'est pas ému, d'ailleurs, particulièrement pour remédier à cette criminalité. Le procureur de la République a dit que je m'étais rendu passible en révélant ces documents d'un délit qui pouvait me conduire à 5 ans d'emprisonnement et 2,5 millions de francs d'amende. À la suite de quoi, il m'a fait auditionner par un commissaire divisionnaire, membre de l'inspection générale des services. Alors, je dois dire que l'audition a été extrêmement courtoise. Ce commissaire divisionnaire m'a demandé d'où je tenais ces documents. Je lui ai dit que je ne savais pas, ce qui n'était pas tout à fait la vérité, mais que même si je le savais, il serait, je regrette beaucoup, en dépit de la considération que j'avais pour sa personne, le dernier à qui, évidemment, j'en ferai part. Il m'a répondu sur le même ton. Je vous remercie beaucoup, monsieur le député, de cette réponse à laquelle je m'attendais un peu. Après le caractère officiel de notre audition, nous avons discuté un petit peu de son avenir, et je lui ai demandé comment, après, quand on était commissaire divisionnaire, qu'est-ce qu'on devenait ensuite, contrôleur général, etc. Bon, et il m'a répondu avec un sourire que pour parvenir à ses plus hautes fonctions, il manquait d'appui philosophique. J'ai trouvé que la formule était extrêmement élégante et joli, que ça. Tout en conservant son obligation de réserve, elle voulait bien dire ce qu'elle voulait dire.
Et alors, je ne sais pas si, justement, vous parlez de d'appui philosophique. Je me demande s'il n'y aurait pas un lien, comme un lien, entre deux phénomènes qui sont apparemment sans relation, sauf à travers un seul homme. C'est M. Perben. On a appris que M. Perben, comme je le disais tout à l'heure, était candidat à aller être candidat en 2007 à la mairie de Lyon. On sait d'autre part que la mairie de Lyon est un fief maçonnique dans lequel on entre que si on est maçon ou avec l'appui des loges, ça revient à peu près au même. Et on a appris le 27 juin que M. Perben, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait donné l'ordre de faire publier faits sans précédent dans l'histoire de la justice française, de faire publier sur Internet, sur le site du ministère de la Justice, site Internet du ministère de la Justice, le rapport demandé à l'inspection générale des services contre le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, qui mettait en avant des erreurs de gestion administrative du tribunal, qui étaient imputées à Éric de Montgolfier par ce rapport. Publication qui a tout de suite été reprise par la grande presse, puisque c'est vrai que la plupart des gens n'utilisent pas Internet, ou très peu, et donc ils n'ont pas lu le rapport en question, mais ils en ont lu les résumés fallacieux qu'en a donné la grande presse, qui a prétendu que ce rapport mettait en lumière les fausses accusations que le procureur de Montgolfier avait portées contre les magistrats francs-maçons qui infestent le tribunal de Nice. Alors, je trouve intéressant de découvrir que M. Perben, au moment où il a vraiment besoin des francs-maçons pour pouvoir réussir son Anschluss à la mairie de Lyon, mène une action qui est une action homo, comme on disait dans les services spéciaux, c'est-à-dire c'est carrément liquider un type en faisant publier un rapport qui met en cause son honnêteté. Le gag de ça, c'est que, et je raconte ça dans le prochain numéro du Libre Journal, le gag, c'est que quelqu'un a fait foirer cette belle opération, et c'est notre ami Perra. Car le camarade Perra, maire de Nice, et ancien
avocat pénaliste,
a soutenu, comme le corps soutient le pendu, la proposition de M. Perben, et il a fait le coup du pavé de l'ours en disant « Mais Perben a tout à fait raison, il faut faire partir Montgolfier, bravo, je soutiens Perben, etc. » Ce qui fait que Perben, qui croyait rendre service aux francs-maçons, s'est aperçu qu'il faisait plaisir à un type qui est quand même pas fréquentable, parce que aussi UMP qu'il soit, Perra portera jusqu'à la fin de ses jours la marque infamante de son ex-appartenance au Front National et de ses bonnes relations avec Jean-Marie Le Pen. Il est toujours considéré comme un résidu de la bête immonde. Et du coup, Perben a renoncé à faire liquider, à limoger Éric de Montgolfier. Donc, c'est amusant de savoir que Éric de Montgolfier, qui passe pas pour un homme d'extrême droite, il s'en fout beaucoup, a été sauvé du coup près fatal par M. Perra, maire de Nice, qui a voulu rendre service à M. Perben, futur maire de Lyon.
Certes.
Voilà. C'est petites anecdotes parce que...
Malheureusement, je crains que ça n'ait pas été du double degré de la part de Jacques Perra.
Non, je pense pas du tout. Je crois qu'il a fait ça. Il a voulu rendre service. Ça me paraît évident. Voilà, alors, on s'est un peu attardé sur l'actualité. Je vais demander à Victoria de lire les messages. Il y en a ?
Il y en a des quantités.
Des quantités, c'est curieux.
Alors, on va essayer d'y répondre quand
voilà,
même.
Voilà.
À l'assaut. Le soir du 14 juillet, les voitures ont continué de brûler dans la Seine-Saint-Denis et ailleurs. Le 11 juillet, à Dreux, fut surréaliste. C'est un autre auditeur. Le 11 juillet à Dreux fut surréaliste. Ce jour-là eut lieu à la chapelle Saint-Louis les obsèques de la comtesse de Paris. C'était un écrin très vieille France entouré par une ville occupée.
Ça, le marquis viendra nous raconter ça la semaine prochaine.
Sarkozy est tellement peu sévère avec la racaille que les voitures continuent de flamber de plus belle, mais on préfère s'en prendre aux automobilistes.
Oui, je trouve aussi que, tout en étant évidemment un adversaire de la violence routière et en considérant qu'il y a des chauffards qui doivent être sanctionnés, la répression des automobilistes prend des allures d'une espèce de succès d'année. On prétend s'en prendre à la violence et en fait, sous prétexte de s'en prendre à la violence, on s'en prend aux automobilistes. Et il y a des choses tout à fait abusives dans ce domaine, oui.
Une auditrice, j'ai été victime il y a 2 ans d'une tentative d'homicide par strangulation. J'ai échappé par miracle à la mort. Mon agresseur a été arrêté. C'était un SDF sans papier polonais qui avait déjà été mis en prison pour divers vols. La police m'a annoncé qu'il écoperait de 6 ans de prison avec reconduite à la frontière polonaise à la fin de sa peine. Le juge en a décidé autrement et l'a libéré au bout de 2 ans, c'est-à-dire le mois dernier. Il est libre à Paris et m'a téléphoné pour me menacer. J'ai prévenu la police qui m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Je vis dans la peur et l'angoisse.
C'est ahurissant. C'est intéressant. Il faut porter plainte, oui, madame, au procureur.
Il faut porter plainte au procureur.
Et il faut dire au magistrat qu'il a relâché que vous le tenez personnellement responsable de votre sécurité. Voilà.
Et puis, il faut peut-être s'adresser à l'association de
défense des victimes.
Des victimes de l'EPI, oui.
Le cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier a tourné un excellent film intitulé L627 qui montre bien que les trafiquants de drogue sont tous des Arabes et des Africains.
Dans le film. Ah oui,
Ce film est nettement xénophobe.
C'est du cinéma, c'est forcément de la fiction.
Ce film est nettement xénophobe. Je ne comprends pas pourquoi M. Goffman a l'air de dire que ce cinéaste est un gauchiste.
Parce qu'il a tourné d'autres films, et notamment un film contre la prétendue double peine. Et c'est le principal agitateur pro-immigrationniste et pro-délinquant de Lyon. Et je ne l'apprends pas, Bruno Gollnisch.
C'est en effet un militant de gauche. Ce n'est pas un cinéaste dépourvu de talent. Et effectivement, ce film assez réaliste s'explique mal dans l'ensemble de son œuvre, mais après tout, on peut être un militant de gauche et de temps en temps touché par la vérité.
On lui a posé la question, il a répondu effectivement qu'il ne voulait pas nier ses réalités.
Pour M. Hollande, vous oubliez que la capitulation d'Évian comporte une occupation du territoire français par les vainqueurs. Évian, c'était pire que Montoire. Un auditeur, les Français ont perdu la bataille à cause de l'avortement. La démographie française et européenne chute à vitesse grand V.
À cause de l'avortement, à cause de l'absence de politique d'accueil de la vie, à cause de la destruction de la famille, à cause d'une façon générale de la dégradation du respect des valeurs traditionnelles de notre pays, de son identité, de l'abdication de sa souveraineté.
C'est tout un ensemble.
Dans votre livre, vous vous prononcez très nettement contre l'avortement, si je l'ai bien lu.
Oui, ben je vois pas comment je pourrais me prononcer pour, d'ailleurs, hein, c'est clair, bien sûr, oui.
Savez-vous que le MRAP se plaint que l'extrême droite et les juifs font cause commune contre les musulmans sur Internet?
J'ai entendu ça en venant ici, à la radio, et je dois dire que ça fait partie quand même des nouvelles réjouissantes.
C'est un gag intégral, puisque
de la part d'une organisation subversive, marxiste, ou pro-marxiste, qui ne vit des prébendes et des subventions pour mener successivement toutes sortes de combats contre les patriotes.
Enfin, moi, j'aime pas trop servir de balle de tennis dans les matchs entre Palestine et Israël.
Voilà.
Je m'en fous de leurs histoires, je l'ai déjà dit. Est-ce que je sais, c'est que j'ai été l'un des premiers à dénoncer un site internet qui s'appelait SOS Racaille, qui se présentait comme un site d'extrême droite ou un site nationaliste, alors que c'était un site qui était directement fabriqué par le Mossad pour provoquer des incidents graves entre les musulmans, enfin entre les arabo-musulmans et l'extrême droite française, pour les forcer à se battre entre eux pour le plus grand bénéfice des agitateurs qui avaient conçu ce site internet. Et j'ai tellement dénoncé ça, j'en ai tellement parlé, que ça a fini par se savoir, que d'autres ont repris le flambeau, si j'ose dire, et que le site a fini par disparaître. Et à l'heure actuelle, il y a un nouveau site qui refait exactement la même chose, dont je donnerai le nom prochainement, et c'est systématique. Alors, ces manipulations, les enfants, faudrait quand même pas nous prendre que pour des pélicans. On connaît très très bien vos méthodes, on sait très bien comment vous travaillez pour dresser les communautés les unes contre les autres dans un pays qui ne devrait pas connaître de communautés. On devrait même pas savoir ce que c'est vous qui les avez inventés, c'est vous qui les avez fabriqués. Et moi, en tout cas, extrême droite, je ne suis ni l'allié des juifs contre les arabes, ni l'allié des arabes contre les juifs. Je trouve que chacun doit mener sa barque comme il entend. Et en tout cas, s'ils veulent se battre, ils ont pour ça un territoire parfaitement choisi. Ils l'ont voulu, ils l'ont. Et ils sont pas obligés de venir porter leur bagarre en France, qui n'en a strictement rien à foutre. Donc, que le MRAP accuse l'extrême droite d'être associé aux juifs ou aux arabes contre les juifs, aux juifs contre les arabes, ou les juifs et les arabes d'être associés contre l'extrême droite, ça d'ailleurs, ça serait peut-être la chose la plus conforme à la vérité. Tout ça, c'est d'abord complètement en dehors de la compétence du MRAP, qui est censé être un mouvement contre le racisme, autrement dit, un mouvement qui doit aussi combattre le racisme anti-français, qu'ils ne font pas, et ce qui permet d'ailleurs à la griffe de le faire.
Un auditeur nous dit « Tout à l'heure, j'ai été bloqué place de la Concorde par les intermittents du travail. Vous savez, ceux qui vendent le muguet le 1er mai, leur revendication, on leur paye les 364 jours restants.
» Ah, c'est magnifique, ça.
Concernant le Festival des Vieilles Charrues, les Bretons n'ont pas eu peur de montrer leur détermination et les intermittents ont renoncé à les chahuter. Les Bretons sont les meilleurs.
Non mais voilà encore, ça c'est exemplaire, cette histoire d'intermittent du spectacle. On se fout du monde, ça fait 15 jours qu'on nous emmène en balade avec ça. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il y a combien de Français qui vont assister à ces festivals qui n'ont aucun intérêt, je dis festivals à dessein, qui n'ont aucun intérêt, qui emmerdent tout le monde.
Ça dépend lesquels, ça dépend lesquels.
À l'exception d'Aix, voilà. Enfin, franchement, Avignon, la suppression d'Avignon a fait autant d'heureux qu'il y a d'Avignonnais, pratiquement. La suppression de ce cloaque immense, de ce trou du cul du monde qu'était les francopholies de La Rochelle, qui drainait toute la racaille à des centaines de kilomètres à la ronde, qui mettait la ville à feu et à sang et a transformé les rues de La Rochelle en chiottes pendant 15 jours, ça fait le bonheur des Rochelais. Il suffit de leur téléphoner pour leur demander, vous allez voir, ils sont ravis les mecs. Il y a d'ailleurs un dessin de Conque dans Minute
d'aujourd'hui,
où on voit deux types, alors ça se passe à Avignon, qui se baladent au pied des tours du palais d'Avignon et qui disent « Ah dis donc, qu'est-ce que c'est chouette Avignon sans le festival ?» C'est exactement ça. Donc, première chose, l'immense majorité des Français s'en foutent. Deuxième chose, l'immense majorité des Français en a rien à faire de payer pour des choses qu'ils ne vont jamais voir. Les Français, quand ils vont pas au théâtre d'abord, et quand ils y vont, ils vont voir les tournées Herbert Carcenti. Hein, c'est-à-dire... du théâtre de boulevard, du théâtre de boulevard à 3 sous, bon, ça, donc tout le monde s'en fout. Et puis en plus, ces histoires d'intermittents du spectacle, il faut quand même savoir à quoi ça sert. Ça sert à payer des gens qui n'ont strictement rien à voir avec le spectacle.
Oui. Les Français, en particulier dans l'audiovisuel, à commencer par les chaînes de services publics, qui se trouvent là le moyen d'embaucher un certain nombre de gens pour quelques jours et de faire payer par l'assurance chômage le reste du temps.
Est-ce que vous savez que sur certaines radios périphériques, et pas sur les radios libres, en tout cas pas à Radio Courtoisie, les standardistes qui répondent au téléphone dans les émissions au téléphone pour dire je vote pour Tata Fina contre machin truc, ces standardistes sont intermittentes du spectacle. Non mais on croit rêver.
Absolument.
Et il faut travailler 507 heures par an pour être payé toute l'année.
Ceci étant dit, il y a quand même quelques festivals qui valent la peine. Je pense en particulier à des festivals musicaux comme, par exemple, à Lyon, les Nuits de Fourvière, au Corégie d'Orange, à d'autres choses de ce style.
Mon cher Bruno, moi,
ce que je constate, c'est que moi aussi, je suis assez réjoui de voir des gens qui s'étaient distingués par leur agression, au sens littéral du terme, contre le Front National. Je pense en particulier, justement, je faisais référence à l'élection de 98, quand nous avons voté
Pour Charleville, on s'était parfaitement régulier. Nous avions le total faisait 95 élus sur 150. Il y avait une majorité claire à l'issue d'élections dont le résultat n'était pas contesté ni contestable, et que tous ces gens-là, tous les théâtreux, etc., se sont mis à envahir l'enceinte du Conseil régional. D'ailleurs, à ce moment-là, nous leur avons coupé un certain nombre de subventions, ce que Charles Millon n'osait pas faire. Nous avons été servis par la gauche qui votait de toute façon systématiquement contre tout ce qu'il proposait. Et je dois dire que je me souviens d'un type du théâtre de la Croix-Rousse, le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, qui avait envahi l'enceinte du Conseil régional avec ses troupes, précisément, et au cri de
le fascisme
ne passera pas, etc. Et alors, moi, j'étais dans l'enceinte, et comme je ne me laisse pas démonter par ce genre de manifestation, et comme on votait les crédits de la culture, c'était très bien, j'ai dit, mais nous avons vu le directeur du théâtre de la Croix-Rousse envahissant l'enceinte d'une assemblée délibérante, je vote donc la suppression des subventions au théâtre de la Croix-Rousse. Et alors, à la sortie, le type absolument ébahi a fait à la télévision un commentaire du genre, mais c'est affreux, non seulement ils sont fascistes et ils sont nazis, mais en plus
ils nous donnent pas
l'argent, tellement ils étaient habitués, notamment de la part du RPR et de l'UDF, n'est-ce pas, à voir les élus de la fausse droite essuyer les crachats de la main gauche en leur signant un chèque de la main droite. Là, je dois dire, pour une fois, ils étaient tombés sur
À cet égard.
Alors c'est vrai que c'est assez réjouissant de voir de voir ces gens-là qui sont en butte aujourd'hui à l'hostilité de leurs propres troupes. Ceci étant dit, si le Front National, dans par exemple une légitime protestation contre le fait qu'il est l'objet d'un véritable apartheid, représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, réserver la moindre salle est un problème insurmontable, sa manifestation pacifique annuelle des bleus, blancs, rouges est supprimée par Delannoy sous les prétextes les plus arbitraires, la justice ne se rate pas de lui faire droit à ses griefs, etc. Si nous avions attaqué une manifestation, le centième de ce que se permet aujourd'hui la CGT du spectacle, que n'eût-on pas entendu?
Rappelez-vous l'affaire de l'Assemblée nationale, oui, l'affaire des clés.
Bien sûr. Roger avait participé.
À cet égard, il faut quand même rappeler, même brièvement et rapidement, que les Français auraient tort de s'en foutre, comme vous le disiez tout à l'heure, Serge, puisque ces gens qui étaient 7000 il y a 20 ans sont aujourd'hui 100 000 artistes. Est-ce qu'on a vraiment 100 000 Molière, 100 000 Picasso en France, il est permis d'en douter. Surtout, comme vous le disiez, ce sont souvent des coiffeuses, des standardistes et des gens comme ça. Et qu'ils représentent, ces 100 000 individus représentent les deux tiers du déficit de l'UNEDIC, c'est-à-dire que les 13 millions d'assujettis payent pour ces gens qui travaillent, entre guillemets, pendant 3 mois par an. Et souvent pour produire des spectacles ignobles, comme ces deux artistes qui viennent devant la cathédrale de Zagreb en Croatie, de simuler l'acte sexuel. Naturellement, c'était de l'art, c'était un happening. Ils ont été très surpris quand la population catholique locale, un peu plus énergique que la nôtre, leur est tombée dessus pour les lyncher. La police a eu beaucoup de mal à retirer ces artistes subventionnés des mains des catholiques locaux.
Je me permets de lancer un appel, parce que j'ai discuté avec une ou deux personnes qui n'étaient pas d'ailleurs des artistes, notamment un technicien de la télévision qui m'a dit, mais moi je suis sous le statut d'intermittent du spectacle. Et il m'a dit sans hostilité du tout, il m'a dit, mais vous savez, les projets gouvernementaux ne supprimeront pas les abus dont il m'a confié qu'ils étaient bien réels. Il m'a dit, je touche, plus je suis payé pour mon travail, plus je touche de la part de l'UNEDIC. Il y a quand même là un paradoxe. Alors, je lance un appel. S'il y a des gens qui partagent nos convictions et qui sont sous ce statut et qui pourraient nous donner une analyse et équitable précisément du projet gouvernemental, qu'ils veulent bien m'écrire à Bruno Gollnisch, Front National, 4 rue Vauguyon, 92-210 à Saint-Cloud, s'il vous plaît, parce que nous serions heureux d'avoir une analyse de leur part.
Et puis, il y a un dernier commentaire que je voudrais faire là-dessus, c'est que, justement, à propos du Festival des Vieilles Charrues, on a vu comment on règle un problème d'agitation dans la rue. Les les Bretons ont dit, comme le souligne notre auditeur, vous ne viendrez pas. Si vous venez, on va vous virer à coups de pompe dans le derche. Et les gars ont dit, on ne fera rien. Quand il y a eu le spectacle de Johnny Hallyday, le producteur du spectacle a dit, écoutez, vous voulez interrompre le spectacle, moi je ne veux pas que le spectacle soit interrompu, par conséquent on va confronter nos moyens. Moi je vais faire venir des gens avec mission de vous empêcher de nous empêcher. Voilà. Maintenant, vous prenez vos responsabilités. Et les gars sont restés en lisière. Ils sont pas venus.
Les Rolling Stones, même chose.
Les Rolling Stones, même chose. Alors, ça veut dire que quand on fait comme Fèvre d'Arcier, je sais pas comment il s'appelle.
Fèvre d'Arcier,
oui. Et qu'on rampe, ben on prend des coups de pied dans la figure. Quand on rampe, c'est des choses qui arrivent. Quand on se tient debout et qu'on dit aux gars, venez-y, on vous attend et on vous recevra avec les honneurs qui vous sont dus, eh bien, comme par hasard, l'enthousiasme baisse beaucoup chez les agitateurs. Donc, je livre un secret à Monsieur Sarkozy. La répression, ça ne marche pas seulement pour faire respecter la vitesse sur les autoroutes.
Mais d'autant qu'ils sont une cinquantaine. Alors, il a suffi à Johnny Hallyday d'aligner sans gros bras. Moi, j'ai entendu le responsable de la CGT du spectacle de Bretagne, à qui on disait, mais vous êtes quand même un peu dur d'afficher en l'air ce spectacle qui est financé sur des fonds privés, qui va en crever. Et le type a fini par lâcher après deux ou trois répliques. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Moi, je passe pas sur scène, je passe jamais sur scène, moi. Sans doute parce qu'il est trop bon. Alors voilà, comme lui, il fait partie de ces 100 000 artistes sikhs qui ne savent guère mieux faire que de mimer l'acte sexuel devant la cathédrale de Zagreb et réclamer des subventions pour cela à des gens qu'ils insultent par ailleurs. Voilà pourquoi ils s'en foutent.
À Avignon, ils nous les ont montré plusieurs fois. Ils avaient discuté toute la nuit. Attention! Toute la nuit, ils avaient discuté. Et ceux qui sont arrivés à Paris, hein, le gars, le commentateur de la télé, a dit, ils ont essayé d'intervenir sur les Champs-Élysées, mais ils étaient tellement fatigués après des nuits de discussion. Non, mais c'est des rafales de coups de pied dans le cul qui se passent.
Alors, la suite des messages.
Un auditeur, pas de contrepartie à l'immunité du président de la République. Mais si on siffle le président et qu'on le traite de voleur, on ne sera pas poursuivi car il faudrait qu'il s'explique là-dessus. La preuve, les guignols.
Non, on peut très bien être poursuivi et dans le délit d'injure au chef de l'État, qui est un petit peu tombé en désuétude, on ne peut pas faire la preuve de ce qu'on avance. Il suffit que le propos
J'ai un scoop pour les spectateurs, pour les auditeurs de notre radio, hein, c'est que au Champs-Élysées, le 14 juillet, il y a un type qui a gueulé au passage de Chirac, escroc, il a été arrêté, il est passé en jugement immédiat, il a pris 15 jours pour insulte envers le chef de l'État et 20 ans pour divulgation de ce secret militaire.
C'est Roger Hollande dont on peut rappeler que non seulement il est l'auteur de livres d'analyse politique sur des sujets considérables tels que, malgré tout, Israël-Palestine, parce que Serge peut se comprendre, c'est quand même un problème qui conditionne un peu la paix du monde.
Il ne dit pas que des bêtises.
Mais qu'il est aussi l'auteur d'un recueil d'histoire drôle qui n'est pas à négliger.
Et dont un lecteur a dit, Monsieur Hollande, c'est le livre le plus important que vous avez écrit.
Je ne suis pas sûr que ce lecteur.
Monsieur Hollande, c'est votre meilleur livre. Alors, c'est un petit truc ridicule que c'est votre meilleur livre. Ça m'a fait penser un peu. Et il y a deux ans, au château, j'attendais qu'arrivent les gens du FNJ. Et il y a une gamine du FNJ qui me voit, qui vient vers moi, elle me dit, c'est vous le concierge.
On précise qu'il s'agit du château de Neuvice. Sur Barangeon, où ce dimanche se tient.
C'est le 27 juillet, on fait une messe pour les morts d'Indochine en représailles pour le film, et on fait une journée amicale pour l'Indochine le 27 juillet 2003.
Donnez un numéro de téléphone dans la foulée.
27 juillet 2003, oui.
On va donner les adresses tout à l'heure.
Bon. On vous répond tout de suite là sur les intermittents. Je suis intermittente du spectacle. Je suis content que vous fassiez la distinction entre ceux qui sont des allocataires, qui, je ne sais pas, et si 30 000 disparaissent, ce sera tant mieux. Ceux qui manifestent contre notre profession.
Alors, je serais très heureux de prendre contact avec cette personne.
Alors, il faut lui demander de prendre contact avec...
Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'écrire Bruno Gollnisch, Front National, 4 rue Vauguyon, à Saint-Cloud?
Un autre commentaire, je suis comédien, et n'étant ni de gauche, ni franc-maçon, ni juif, je ne travaille pas du tout.
Eh oui, ça c'est aussi un cas dramatique, oui, oui.
Il devrait essayer, il y a une quatrième condition qu'il devrait essayer de remplir.
Oui.
Il pourrait peut-être lui ouvrir quelques portes.
Grâce aux intermittents du spectacle et de la CGT, les 10 ans de la mort de Léo Ferré ne seront pas commémorisés. On a
commémoré.
Commémoriser, ça s'impose.
Oui. On a échappé à cela. Rappelez que dans les intermittents du spectacle, les aides-coiffeuses qui, pour un film, donnent le dernier coup de peigne avant l'entrée de l'acteur de deuxième ou troisième plan, touchent ces indemnités de chômage toute l'année.
Oui, mais ça, c'est pas forcément leur faute aussi.
Ben non,
C'est un certain nombre de sociétés, je dis y compris l'audiovisuel dit de service public, qui bénéficie par ailleurs de la redevance et de la publicité, sauf que ça fait beaucoup, qui pratiquent cela régulièrement.
Enfin, est-ce qu'on imagine un cordonnier qui réparerait des chaussures pendant 500 heures, et au bout de 500 heures, il dirait « j'ai plus de clients », il irait aux assainis, il serait payé tout le reste de l'année. À rien foutre. C'est invraisemblable, cette situation. Ça n'existe nulle part. Et au monde, ça n'existe nulle part. J'ai un ami qui est un danseur, que j'avais reçu d'ailleurs à cette émission, qui m'a dit, aux États-Unis, quand un comédien n'a plus de travail, il prend un boulot de serveur dans un restaurant, et il se sert de son argent pour vivre, pour se loger, et ce qui lui reste, il s'en sert pour payer des cours, pour apprendre à mieux travailler, parce qu'il se dit que s'il n'a pas de travail, c'est qu'il ne travaille pas bien.
La comédienne Cécile de France, qui est belge comme son nom l'indique, a déclaré avec fureur sur France Inter, mais enfin, cette réforme va créer en France la situation que nous avons en Belgique.
Une auditrice nous dit, je vous signale qu'il y a environ 10 jours, le Don Giovanni de Mozart, qui devait avoir lieu à l'Opéra Bastille, a été annulé en raison de la grève. Ce n'est donc pas uniquement les festivals qui sont concernés.
C'est vrai.
Un auditeur précisait qu'il y a aussi le réel comédien, notamment des vedettes féminines de cinéma de plus de 40 ans, qui est même très connu, qui n'hésite pas à empocher l'indemnité mensuelle de plusieurs dizaines de milliers de francs. Et entre le tournage de deux films. Mais il est à préciser que d'autres vedettes rechignent et refusent de commettre cette mesquinerie. Une auditrice, et les écrivains ne sont-ils pas des intermittents de la culture? Si leurs livres ne se vendent pas, ou s'ils publient tous les 5 ans, doit-on les inonder de subventions?
Qu'est-ce qu'il en pense,
Ils aimeraient.
Le Goffman refuse les assédiques. Alors, c'est pas pour prendre le RMI ou piquer dans la poche des gens qui payent l'UNEDIC.
Autre sujet. Depuis fin juin, on peut voir sur la mairie du 20e une grande banderole bleu, blanc, rouge. Fait-on la République métissée?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant c'est le métissage gratuit, laïque et obligatoire. Ayant pour ma part épousé une japonaise, je dois dire, j'apprécie la liberté que l'on a en France d'épouser qui l'on veut, mais le métissage obligatoire à l'échelle de l'ensemble d'un peuple, c'est véritablement un crime de haute trahison.
Oui, voilà, c'est exactement comme ça. Je n'ai rien contre le métissage. Je connais des métis en Indochine et ailleurs qui étaient de grands Français, mais ce truc obligatoire, cette maladie qu'ils essayent d'imposer au pays.
Enfin, c'est quand même extraordinaire que
je dégoûte profondément tout
ça. Le 14 juillet, il ne trouve que 14 beurrettes. J'ai rien contre les beurrettes. Il y en a qui sont mignonnes, gentilles. Bon, mais 14 beurrettes pour décorer les colonnes du temple à l'Assemblée nationale,
oui, pour jouer les mariages. Parce que ces gens sont des malades. C'est la révolution permanente. Je vous dis, c'est pas la peine d'aller dans les pays d'Amérique du Sud où sévissent ces gens-là. C'est exactement comme ça qu'ils ont tué ces pays. Voilà, exactement comme ça.
Autre sujet, Monsieur Gollnisch et beaucoup d'intervenants sur Radio Courtoisie parlent de la décentralisation comme de la fin de la France. Oui, mais de la France républicaine. Comme l'a dit Maurras, la République ne peut décentraliser sans se déjuger et se détruire. Seul le roi peut faire réussir la décentralisation en France. Conclusion, le roi vite.
Oui, mais ce dont il s'agit, ce n'est pas du tout du retour des identités provinciales. Comme l'indiquent d'ailleurs les projets, par exemple l'ahurissante réforme de l'élection des parlementaires européens, non plus sur une liste nationale, mais en de gigantesques euro-régions, dont l'une, par exemple, dans le sud-est, englobe Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. N'est-ce pas, sous prétexte de rapprocher l'élu de l'électeur, c'est-à-dire que les candidats seraient censés faire tous les marchés, depuis le marché aux volailles de Bourg-en-Bresse jusqu'au marché aux poissons de Bonifacio.
Ils sont contre les provinces, ils sont contre les anciennes provinces.
Bien sûr. On continuera les questions plus tard, peut-être. Non, parce
oui,
que...
il y en a encore deux, trois.
Bon, alors allez-y.
J'écoutais Radio Courtoisie.
Oui. Les Corses ne veulent pas de l'indépendance. Ils désirent seulement l'autonomie, c'est-à-dire la liberté de fixer eux-mêmes le montant de ce que la France doit leur donner. Une auditrice.
Ah, les Corses, ça me
c'est
paraît.
Pas Corses, c'est pas les Corses, oui, c'est pas, parce que Roger Olindre qui est Corse.
Je suis Corse de père, de mère et de naissance, c'est pas mal, hein, mais je n'ai pas un nom Corse, voilà.
Bah oui, mais il faudra arranger ça. Ouais.
Je serai un peu bâtard sur les bords, que ça ne m'étonnerait pas.
Mais Roger Olindre sait très bien que ce n'est pas le cas de tous les Corses.
Oui. Non, mais c'est sûr et certain, d'ailleurs.
Au contraire.
Une auditrice rappelait que toute cette ouverture, cette invitation à la racaille ainsi qu'à l'islamisme, c'est pour récupérer les bulletins de vote qui remplaceront les bulletins de vote des Français. Lucides, qui ne voteront pas comme ils le désirent.
Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est plus que ça. Il n'y a pas seulement un intérêt électoral immédiat. Je crois que c'est véritablement, c'est presque métaphysique.
Oui,
voilà. Je pense que la révolution... à quelque chose de satanique, on a parlé tout à l'heure de la révolution, de la terreur révolutionnaire. C'est la prétention à fonder la société en dehors des lois naturelles, en dehors de la création, en dehors de la loi divine, de la loi naturelle, ou simplement, je dirais, pour ceux qui sont agnostiques, ne serait-ce que des contraintes d'un ordre qui s'impose à l'être humain en dehors de lui-même. Bon, on a vu ça avec la révolution rationaliste, qui a été la révolution française, on a vu ça avec la révolution marxiste, qui prétendait tout fonder sur la lutte des classes, on a vu ça, d'une certaine façon, avec la révolution hitlérienne, qui prétendait tout fonder sur la race, alors que les races existent, les facteurs ethniques existent, bon, mais qui ne sont pas évidemment un absolu. Et à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Mais ça n'en est pas moins révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a une véritable haine métaphysique des différences. Des différences entre les sexes, entre hommes et femmes, des différences entre les ethnies, entre les races, des différences entre les cultures, et qu'il y a par conséquent une volonté prométhéenne de faire aboutir une espèce de société indifférenciée, dans laquelle les individus ne seraient plus ni hommes, ni femmes, ni noirs, ni blancs, et je dis toujours que le prototype, c'est en quelque sorte Michael Jackson.
Exactement.
C'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il est proposé. Ouais. À l'adulation des jeunes, ce pitoyable pantin qui a sombré dans les affaires.
Je me souviens comme si c'était hier. Hein, c'était au moment des affaires de Dreux, hein, sous Stirbois. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, il y avait Madame Gaspard qui était l'agitatrice gauchiste de Dreux. Et je me souviens un matin, il y avait les gens de la radio qui avaient été l'interviewer chez elle. C'est du temps de Stirbois, donc ça fait, ça fait 20 ans. Hein. Et elle était à sa fenêtre avec le gars de la radio, et elle dit, vous voyez ce que je vois en bas, là, un petit noir, un petit blanc, un petit jaune, c'est la France de demain. disait Madame Gaspard il y a 20 ans. Alors est-ce que les gens qui me connaissent peuvent penser que je serais contre le fait que la France de demain soit un petit noir, un petit jaune et un petit blanc? Non, si ce petit noir, ce petit jaune, ce petit blanc, on en faisait des Français à qui on aimerait, on ferait aimer la France. Mais on se sert de ce petit noir et de ce petit jaune et de ce petit blanc aussi qui est travaillé au corps pour ne pas faire la France, pour faire autre chose que la France.
Elle oubliait dans son tableau élue socialiste qui était une femme sans en être une.
Il est 7h30, nous interrompons. Nous venons dans 2 minutes pour parler de vos livres respectifs pendant un quart d'heure pour chacun. Merci.
D'accord.
De passer la soirée avec nous tout à l'heure à 21h, les soirées musicales au programme Série Jazz jusqu'à 22h, une émission proposée par Franck. Et dès 22h, Claudio vous propose des musiques de films. Et puis à 23h, les quatuors de Beethoven par le quatuor bulgare. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juillet 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Roger Olindre, alors on va parler maintenant de ce livre qui est inattendu pour ceux qui ne connaissent pas Roger Olindre, pour ceux qui croient que Roger Olindre c'est simplement un tribun du Front National, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais qui ne savent pas que Roger Olindre c'est un écrivain et un journaliste qui a été une des une des stars du journalisme à Paris Match pendant oui, quelques années.
Je dis souvent que j'étais un des mieux payés à Paris Match. C'est que si,
c'est
on, payait,
bon signe,
si on me payait bien, c'est parce que voilà. j'étais quand même un bon et j'essayais de faire mon travail.
Et alors, ce livre est un livre courageux parce que le sujet est effectivement brûlant, explosif, délicat. On est toujours obligé de prendre parti pour ou contre ou pour. Alors, le titre, c'est Israël-Palestine, assez de mensonges. Et c'est un livre qui recense, donc comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, tous les mensonges qui sont proférés à longueur de journée sur cette affaire israélo-palestinienne ou palestino-israélienne, et tous les non-dits aussi.
Oui. J'ai la prétention de dire que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup archivé, j'ai beaucoup cherché de documents afin de rétablir quand même un peu la vérité, hein, surtout la vérité à partir des années 40. Bon, le problème israélo-palestinien date bien avant ça, une centaine d'années avant la guerre de 40, mais tout ça, c'est quand même le plus important, c'est passé pendant la guerre de 40. Et j'essaye de montrer les immenses combats qu'il y a eu dans cette région et le fait qu'aujourd'hui, quand des gens disent par exemple que tout le monde savait en 40 ou en 41 qu'Hitler allait perdre la guerre, tout ça c'est du baratin, tout ça c'est du boniment. Alors je situe la France de l'époque, notre France, ma France de gamin que j'étais, et puis aussi un peu l'internationalisation des combats, hein, ceux qui se passait chez nous, mais ce qui se passait chez nous dépendait aussi un peu de ce qui se passait à l'extérieur. La perte de l'Indochine, l'occupation de l'Indochine par les Japonais était un événement français ressenti par les Français. Parler aujourd'hui, par exemple, du gouvernement de Vichy et ne pas parler de Dunkerque, ne pas parler de la flotte française, ne pas parler de Marcel Kébir, c'est exactement comme si on voulait faire un gâteau sans mettre de la farine et sans mettre des œufs. Alors le problème israélo-palestinien, je le développe dans tout ça, en situant d'année en année pendant toutes ces années de guerre. Hein, et je donne raison aux Juifs quand ils ont raison, tort quand ils ont tort, je donne raison aux Palestiniens quand ils ont raison et tort quand ils ont tort. Mais à un moment, en plein milieu du bouquin, je dis qui luttait contre qui était avec qui, eh bien c'était pas tellement facile de le savoir. Parce qu'il y avait des juifs pro-allemands, il y avait des juifs anti-allemands, il y avait des hindous pro-allemands, il y avait des hindous anti-allemands, le monde entier était...
C'est une sorte de papou, quoi.
Voilà, le monde entier était divisé, et ça ne venait pas vis-à-vis de l'Allemagne du nazisme, parce que l'Allemagne était implantée dans beaucoup de pays du monde, et avait une diplomatie, avait une industrie, avait des exportations, avait tout un tas de choses, c'était quand même une grande nation. Et beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit « Votre livre est très intéressant parce que ça nous permet enfin de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. » Bon, si je n'ai réussi que ça, c'est déjà quelque chose.
Surtout un livre qui pose bien le problème créé par la francisation d'un conflit étranger.
Oui. Hein ?
C'est-à-dire, après tout, c'est ce que je passe mon temps à dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre parti, au nom de quoi est-ce qu'on est obligé de prendre parti dans cette bataille-là ?
Voilà,
raison de prendre parti, c'est l'intérêt national.
Oui, la seule chose que moi je fais ressortir dans ce livre, c'est que je dis que les Palestiniens ont droit à une terre, au même titre que les Juifs. Voilà. Et lorsque j'entends là avec la feuille de route, quand on vient nous raconter que ça va se régler, ça n'est pas vrai. Ça ne se réglera pas comme ça. Avant que ça soit réglé, il y aura une guerre civile entre les différents groupes juifs. Hein, parce que ils ne lâcheront pas les territoires, ils ne lâcheront pas les endroits où ils se sont installés, ils ne lâcheront pas les nouvelles colonies et les colonies avant les colonies, les points de présence. Hein, ce sont des fanatiques, ils ne lâcheront pas. Alors que là aussi, une partie de la population d'Israël, une grande partie, est pour la paix. Mais les religieux qui tiennent une partie de l'armée, qui tiennent une partie des services secrets, qui tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, et qui font des choses dramatiques à côté desquels hein, ce que la France a pu faire en Algérie, c'est de la rigolade, ne lâcheront pas. Et tout ça, je l'explique, c'est fait au nom du sionisme, mais il y a tout qu'on le fait 25 sionismes, mais qui reviennent à un sionisme de base, un sionisme principal sur lequel tous sont d'accord. Et je raconte ma visite à Jérusalem avec ce jeune aviateur juif que j'ai connu, un pilote de SAS. Ils ont de bons combattants, il n'y a pas de problème. Mais ce type basait toute sa réflexion sur des choses qui dataient d'un ou deux millénaires. Donc il n'y a pas de discussion possible quand tout est basé sur Dieu a donné ce territoire, Abraham a dit ceci, machin a dit cela. Bon, comment régler ce genre de problème? C'est une guerre de religion. Je souhaite que ça s'arrête. Je souhaite qu'il y ait la paix là-bas. Mais je préfère être Roger Hollande ici à Paris et pouvoir donner mon avis qu'être soit le patron des Palestiniens, soit même le patron des Juifs, parce que Monsieur Sharon a été un de ceux qui a le plus poussé pour les colonisations. Alors, pourquoi ont-ils poussé pour les colonisations, y compris les colonisations sauvages? Ben, ça part d'une bonne tactique, c'est-à-dire on prend le maximum, comme ça, quand on rendra un peu, il nous en restera beaucoup. Mais M. Sharon a affaire à des gens pour qui il n'y a pas de maximum, puisqu'ils veulent le grand Israël, qui est 4 fois plus grand dans leurs dessins et sur les cartes, qu'ils ne peuvent le rêver. Même aujourd'hui. Alors c'est dramatique.
En plus, il y a une dimension humaine à ça. Le fait de dire à des gens, vous pouvez construire une colonie, vous pouvez vous installer là. Dans le calcul de leur dire 5-10 ans plus tard, maintenant il faut foutre le camp parce que diplomatiquement ça nous arrange, c'est quelque chose de totalement inhumain. Et on comprend parfaitement, qu'on l'approuve ou pas, mais on ne peut pas ne pas comprendre que ces gens à qui on a permis de s'implanter quelque part, que l'on a aidé à s'implanter, que l'on a financé, que l'on a armé et tout, n'acceptent pas qu'un bougeant leur dise, bon, pas plus que les pieds noirs qu'on a installés en Algérie, à qui on a fait fructifier le pays, à qui on a fait construire le pays, au bout de 130 ans, on leur dit, maintenant, pour des raisons de diplomatie internationale, vous prenez vos clics et vos claques et vous foutez le camp. Le résultat, effectivement, c'est que c'est des gens qui sont en révolte. Oui. Moi, je trouve ça parfaitement défendable sur ce plan, sur le plan purement humain. C'est totalement compréhensible, l'attitude des deux parties est compréhensible. Le drame, c'est pas ça. Enfin, le drame, c'est ça, bien sûr, mais ce qui nous concerne, nous, Français, c'est pas tellement ça. C'est le fait que cet antagonisme qui se passe chez eux, ils se croient obligés de l'exporter chez nous. C'est exactement comme si aujourd'hui, oui, les descendants de Sitting Bull venaient faire des attentats en France pour récupérer les territoires qui leur ont été volés par les pouilleux descendus de oui, l'Europe centrale pour coloniser.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Israël a été formé, a été créé pour recevoir tous les Juifs du monde. Bon, et Moshe Dayan, que j'avais rencontré chez lui un an avant sa mort, j'étais le voir plusieurs fois pour Paris Match. Monsieur Dayan, je lui avais dit, monsieur le ministre, hein, au soir de 1948, quand vous avez appris que l'ONU avait voté la naissance de l'État d'Israël, après vous être bien battu avec vos amis, pensiez-vous qu'Israël serait ce qu'il est aujourd'hui? Et monsieur Dayan m'a dit, hein, monsieur Hollande, vous avez raison de dire qu'on s'était bien battu, et c'est vrai, nous nous sommes bien battus. Et mes amis et moi, nous ne pensions pas qu'Israël serait ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous ne pensions pas non plus qu'il y aurait aujourd'hui plus de Juifs à New York que dans l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est un État créé pour que tous les Juifs y soient, mais tous les Juifs n'y sont pas. Hein, et lorsqu'on voit le roulement de population qu'il y a eu en Israël, le nombre de gens qui sont arrivés depuis 1840, 1870 et jusqu'à présent, qui sont arrivés, qui se sont installés et qui sont repartis, les chiffres sont proprement ahurissants. Et à l'heure actuelle, ils en sont réduits à aller chercher un peu sur toute la planète des gens plus ou moins juifs, que les religieux juifs refusent de reconnaître d'ailleurs
comme en Israël,
comme étant des leurs. Et là, à l'heure actuelle, il serait question de permettre à des non-juifs de devenir juifs, chose aussi à laquelle s'opposent les religieux. Mais le problème, c'est comment vont-ils pouvoir peupler Israël si les gens continuent à partir. Parce que Moshe Dayan m'avait dit le fait qu'il y ait autant de juifs à New York, bon, ça pourrait ne pas être un problème, mais lorsqu'on se bat, c'est ici que ça se passe. Hein. Et le temps qu'ils arrivent de New York à la prochaine guerre, on risque d'être tous crevés avant qu'ils ne puissent arriver, même avec les transports aériens à réaction. Donc le problème, il est là. Parce que j'explique aussi, je cite les faits, je donne les dates, je donne mes sources. Hein. Lorsqu'ils ont évacué le Sinaï, ils avaient construit, il y avait une ville qui s'appelait Yamit dans le Sinaï, qui avait été faite par les colons juifs, avec tout ce que cela comporte de symétrie, de sérieux, de route, de points d'eau, et puis des centaines et des centaines d'hectares de plantations de vergers. Et quand ils ont été obligés de rendre le Sinaï, là c'était une occupation d'un territoire égyptien, ils ont été obligés de le rendre, ils ne voulaient pas, mais ils ont été obligés de le rendre, et c'est justement Sharon à ce moment-là qui a été chargé de cette tâche. Ils se sont battus comme des chiens avec les colons, hein, et ils ont rasé la ville. Ils ont rasé la ville. Et ils ont coupé des centaines d'hectares d'arbres fruitiers pour pas que les Palestiniens puissent se cacher dessous et que l'aviation ne les voit pas. Alors que nous, quand on a quitté Hanoï, les Viet étaient là, étaient présents, et ils comptaient les ampoules qui manquaient. Et la France a payé aux Viet Minh les ampoules qui manquaient dans les bâtiments officiels à Hanoï. Hein, c'est quand même...
Ahurissant.
Tout ça est ahurissant. Et je pense qu'à travers ce livre, des amis m'ont dit, enfin, on comprend un peu le problème. Eh bien, si grâce à moi, ils comprennent un peu le problème, mais ce problème, ce livre, je l'ai fait en respectant les gens qui se battent, parce que j'ai un grand respect pour les gens qui mettent leur vie au bout de leurs idées, ou leurs idées au bout de leur vie.
Merci Roger, ça s'appelle Israël-Palestine, assez de mensonges. Roger Hollard, c'est paru chez Godefroy de Bouillon.
Il faut donner le numéro du ISBN, parce qu'on a des auditeurs partout, ISBN, et il y a des libraires qui disent, moi il n'y en a pas connaître.
Prenez votre burin et votre marteau, et votre, votre plaque de granit pour graver le numéro du ISBN. C'est pas très drôle, mais si c'est dit avec intelligence, ça peut donner quelque chose de bien. 9 7 8 2 8 4 1 9 1 1 5 1 6 9 78 28 41 91 15 16. Ça, c'est le numéro d'ISBN du livre de Roger Land qui s'appelle Israël-Palestine, assez de mensonges. Pendant que nos invités à venir, asseyez-vous, monsieur, entrent dans le bureau en faisant sonner leur portable.
C'est pour les éteindre.
De vives félicitations de la part du jury. Merci Roger. Nous reverrons certainement autour de cette table et de ce micro.
Oui, alors je voulais annoncer qu'à la suite du film sur l'Indochine, là, qui a présenté les soldats d'Indochine comme des ordures, des salauds, hein, dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, où l'armée d'Algérie est aussi salie tous les jours, nous faisons au château de Neuvy-sur-Barangeon le dimanche 27 juillet 2003, c'est-à-dire dans 10 jours, hein, une grande journée patriotique avec une messe le matin, hein, une cérémonie des couleurs, un film sur l'Indochine, une conférence Raoul Salan, un soldat d'Empire, qui est fait par un ami de l'association des amis de Raoul Salan, et le midi, il y a un grand repas vietnamien. C'est très amical dans notre château.
Alors, pour avoir les renseignements, quel est le numéro, Roger?
Alors, le numéro de la rue des entrepreneurs, c'est le 01 41 12 50 70.
01 41 12 50 70 pour avoir toutes les informations sur cette journée du souvenir de l'armée d'Indochine.
Et puis aussi au 01 40 59 07 66. 01 40 59 07 66. 01 40 59 07 66.
Faut le secouer pour qu'il s'arrête. Merci Roger.
Mais si je peux me permettre juste un mot, je recommande vivement bien sûr la lecture du livre de Roger Hollande qui fourmille d'informations et d'informations inédites pour certaines d'entre elles. Je voudrais dire, je voudrais juste exprimer une nuance par rapport à ce que vous avez dit, Serge, sur le fait que, a priori, le problème ne nous concerne pas. Bon, il nous concerne évidemment par l'importance, ce n'est pas lui faire injure, qu'a la communauté juive, non seulement dans notre pays, mais dans des pays décisifs pour l'avenir du monde, comme les États-Unis. Mais il risque de nous concerner très directement parce que le projet que je croyais être au départ presque de fantaisie, qu'est l'adhésion d'Israël à l'Europe, est en train de prendre forme. Dans son discours, le discours d'inauguration de son mandat de 6 mois comme président du Conseil européen, le premier ministre italien Silvio Berlusconi, discours qui a défrayé la chronique à cause de la réponse cinglante qu'il a fait à un député socialiste allemand, Schulz, cet incident grotesque a escamoté une prise de position pour la première fois très nette du président du Conseil européen en faveur de l'adhésion d'Israël à l'Europe. Et il est évident que si Israël adhère à l'Europe, eh bien nous nous trouverons en première ligne, aux premières lignes dans ce conflit.
Serge, est-ce que je peux lire les... avant qu'ils s'en aillent tous les deux?
On n'a plus le temps. Non, c'est vraiment, possible. On n'a plus le temps. Non.
C'était des cours.
C'est des félicitations, j'imagine.
C'est des questions, mais courtes.
Oui, non, on n'a pas le temps. On va garder les pots après. Si il nous reste un peu de temps parce que nos invités attendent. Bruno, alors ce livre, La réaction, c'est la vie, c'est un livre d'entretien.
Oui, parce que c'est une formule d'abord qui a le mérite d'une plus grande facilité pour quelqu'un qui, comme moi, a un peu la hantise de la page blanche. Richard Haddad, qui est un patriote français d'origine libanaise, chrétien du Liban, diplômé des sciences politiques, d'histoire, et jeune éditeur qui a lancé les éditions Godefroy de Bouillon, a eu le mérite de venir m'interviewer dans mes moments de loisirs, c'est-à-dire entre 11h du soir et 2h du matin. Et puis ensuite, nous avons mis en forme ces entretiens, et je le remercie du travail qu'il a fait à cette occasion-là.
D'abord, c'est un livre qui permet de mieux vous connaître.
Oui, c'est vrai. Ça m'a paru un peu curieux. C'est peut-être très prétentieux de ma part de dire cela, mais j'étais assez peu porté, a priori, à m'apesantir sur ma personne, sur ma biographie, parce que je pensais que c'était un peu dans le domaine public, et en fait, pas du tout. Donc, non, je parle de mes origines, de mon engagement, un peu de mon passé.
Je voudrais prolonger votre question, Serge. Moi, ce qui m'a frappé, je le savais déjà, mais enfin, vous entrez dans quelques détails, c'est votre personnalité de bonne élève, je me permets de vous dire, de premier de la classe.
Non, je n'ai pas toujours été premier de la classe.
Des fois, il était deuxième.
Oui, voilà. Enfin, professeur d'université à 25 ans, avec des étudiants souvent plus vieux que vous. Bon, je renvoie les auditeurs que ça intéresse. Mais enfin, vraiment, ça, on a l'impression de quelqu'un de très brillant et de très raisonnable, surtout de très sage. Et on peut dire quand même que le Front National, est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon le parti politique le plus subversif qui existe en France? Alors, est-ce que ça serait, on va pas faire du freudisme, mais est-ce que ça serait une espèce de compensation à cette destinée, à ce comportement trop sage, que d'être devenu le numéro 2 de l'organisation politique la plus subversive de France?
Elle est subversive parce qu'elle va à contre-courant de la pensée dominante qui est ce que je combats depuis ma jeunesse, pour ne pas dire presque depuis mon enfance. Je l'explique dans ce livre. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'incohérence véritablement, d'autant plus que je dois dire que les événements que j'ai vécus, en particulier les événements de 68, la capitulation des autorités, tout ça m'a donné un profond irrespect pour l'ordre établi.
C'est ce qu'il y a, ça n'empêche c'est une
pas
partie,
d'essayer de vivre sérieusement, d'acquérir une compétence pour être utile dans la société. Mais enfin, je...
C'est une partie très intéressante du livre, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se connaît. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le personnage Gollnisch en lisant ce livre. Et notamment, j'ai découvert le cheminement qui conduit... Effectivement, ce que dit Patrick est vrai, le bon élève, petit à petit, à, non pas à prendre conscience de la réalité politique, parce que cette conscience, elle existe depuis longtemps, mais à dire, c'est plus, on peut pas laisser les choses en l'état. Il faut faire quelque chose, il faut agir. Alors que la carrière toute tracée, c'était la carrière universitaire ou la carrière du barreau. Ou
la carrière diplomatique, j'ai envisagé voilà. Un moment, j'explique ça, oui.
Exactement, jusqu'au moment où vous découvrez qu'elle n'existe tout simplement plus, hein, qu'il n'y a plus de diplomate.
Bah, depuis l'invention du téléphone et maintenant aujourd'hui d'Internet, disons qu'il n'y a plus beaucoup d'initiatives qui soient prises localement, oui. Alors, si on lit ce que j'ai fait, la correspondance, par exemple, diplomatique des représentants français au Japon à l'époque de la fin du shogunat ou de Meiji, là, il fallait 2 mois pour qu'ils en... trois mois pour qu'une lettre parvienne à l'empereur. J'étais sous l'Empire, sous Napoléon III, et autant de temps pour qu'elle revienne, là, ils étaient obligés de prendre leurs responsabilités.
Ça, c'est fascinant, cet aspect, parce que, voilà, un aspect, on y viendra, on en parlera certainement un jour, un aspect passionnant de l'histoire que les gens d'aujourd'hui perdent complètement de vue. C'est-à-dire que tous les jugements qui sont portés sur l'histoire font l'économie de cette question chronologique. Logique. On ne peut rien comprendre à l'histoire si on croit que Napoléon téléphonait au pape pour lui dire « Je vous serai obligé de bien vouloir représenter dans 3 jours à Paris pour me faire empereur. »
Bien sûr.
Or, je me souviens d'avoir vu un feuilleton de Marcel Julien où Charlemagne apprenait la mort de son père qui était mort à 2000 km de l'endroit où se trouvait le futur empereur, et il apprenait ça à peu près une demi-heure après l'événement, et immédiatement il sortait les cartes de l'Europe, en disant, bon, alors ça va être pour moi, ça, on va le donner à mon frère machin, et ça, à mon frère truc. Donc, évidemment, il faut dire aussi que quand il voyait sa mère taper du pied, il regardait sa mère en lui disant, c'est pourtant vrai que t'as de grands pieds, maman. Enfin, bon, on voit le degré de réalisme historique. C'est pourtant Julien et pas n'importe qui, mais...
Serge, de poser une autre question. Je vais grouper, comme on a très peu de temps, je vais grouper 2 questions, une légère et une lourde, et j'en aurai fini. La question légère, c'est comment est-il possible, puisqu'on l'a dit, qu'un universitaire de votre niveau signe un livre qui fourmille de coquilles, mais plusieurs par page. Je vous signale, c'est pas complètement désintéressé comme question, que vous avez le correcteur de droite de la place de Paris au chômage, à côté de vous, et j'espère que vous transmettrez à notre ami, à nos amis de Godefroy de Bouillon. La question sérieuse maintenant
est plus importante. C'est parfaitement exact. Le livre, hélas, fourmille de coquilles. Il a été imprimé très rapidement, trop rapidement, j'en suis en partie responsable. Un certain nombre de corrections qui avaient pourtant été faites n'ont pas pu être prises en compte. Comme il en est sorti qu'un nombre limité d'exemplaires, on prépare une 2e édition dans laquelle il n'y aura plus de coquilles. Et je dis bien coquilles parce que sans reprendre à mon compte l'anecdote de l'écrivain qui pour s'excuser avait publié une notice en disant qu'il était navré qu'il y eut tant de coquilles dans son ouvrage, et le cul a sauté à la typographie.
La question sérieuse et peut-être même dramatique, Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, il faut le rappeler aux lecteurs nouveau-nés, comme dit Jean Ferré, vous expliquez à la fin de votre livre aux militants du Front National qui ne doivent pas s'impatienter, et vous leur donnez en exemple, paradoxalement, le travail d'implantation du PCF pendant plusieurs décennies de constitution de réseaux, et vous dites nous n'avons pas ces réseaux. Nous n'avons pas fait ce travail-là. Donc
j'appellerais, pour faire simple, la droite nationale ne dispose pas dans le pays des relais et des réseaux de réseaux suffisants. Alors que le PCF qui est mort, je l'espère, doctrinalement en tout cas, dispose lui encore de relais et de réseaux dont on voit d'ailleurs qui sont parfaitement en mesure d'influer sur la marche du pays, ou sur sa paralysie en l'occurrence.
Est-ce que vous pensez que ce livre, est-ce que vous considérez ce livre comme une, comme un engagement, comme je dirais pas une promesse électorale, mais quelque chose qui vous engage à appliquer un programme. Est-ce que c'est un livre programme, c'est ça que je veux dire?
Non, c'est pas un livre programme. J'ai été le responsable de la rédaction du programme du Front National, qui a été évidemment approuvé par notre président de notre congrès, non pas au dernier congrès qui s'est tenu à Nice, mais au congrès de Paris en l'an 2000, et que nous n'avons pas éprouvé, et nous n'avons pas éprouvé le besoin d'ailleurs de le modifier depuis. J'ai donc été le responsable en quelque sorte de sa réécriture. Là, c'est un livre programme, c'est soumis aux aléas évidemment des programmes des formations politiques. Je dois dire que je pense que nous sommes craints et haïs, non pas du tout parce qu'on pense que nous n'allons pas tenir nos promesses, mais parce que nos adversaires pensent que nous sommes capables de les tenir, ce qui ne s'est jamais vu évidemment depuis très longtemps. Mais ça, c'est pas un livre programme, bien que j'y développe un certain nombre de vues politiques, y compris d'ailleurs des vues qui me sont personnelles et qui ne sont pas qui ne figurent pas nécessairement dans le programme du Front National. Par exemple, quand je parle d'une Union latine que je verrais bien comme substitut à l'Europe de Bruxelles ou d'autres choses de ce type. Bien sûr, il y a des opinions politiques, je les ai exprimées sincèrement, et bien évidemment, ça comporte un engagement moral de ma part, bien sûr. Ce que j'ai écrit, je le pense, et ce que j'ai écrit, c'est aussi ce pourquoi je me bats quotidiennement au sein d'un appareil politique, avec évidemment tous les aléas, naturellement, et toutes les imperfections bien humaines d'un combat de ce type.
Voilà, ça s'appelle, il faut le dire, parce que c'est un... D'abord, c'est, comme je le dis, il apporte beaucoup d'informations sur le personnage que vous êtes. Il y a beaucoup de photos, ce qui est assez rare dans ce genre de livre.
Elles seront légendées dans la prochaine édition, c'est encore une
c'est pas plus mal.
Il y aura un index, une table des matières, enfin bref,
et plus de couilles.
On va y arriver. Et plus de coquilles. Hein.
Quand vous serez président, ça sera un bouquin parfaitement réussi.
Non, c'est un problème aussi. Je dois dire que... Nous ne sommes peut-être pas des personnages très importants, mais c'est vrai que je suis l'un des dirigeants d'une formation politique dont le président est arrivé en finale à l'élection présidentielle. Il est évident que un livre comme celui-là devrait trouver une diffusion dans toutes les librairies, dans les FNAC, etc. Bon, s'il ne le trouve pas plus d'ailleurs que les ouvrages de Le Pen lui-même ou des dirigeants du Front National, les ouvrages. Nous publions beaucoup en réalité. Nous publions beaucoup, mais c'est presque de la diffusion est toujours extrêmement difficile dans un pays qui est soi-disant un pays de liberté intellectuelle.
Alors en tout cas, c'est paru aux éditions Godefroy de Bouillon, qui sont les éditions de Richard Haddad, et on peut se procurer ce livre, moi, je pense,
au siège du Front National,
c'est le plus simple.
Ou chez l'éditeur.
Et dans toutes les bonnes librairies, amis. Ennemi, je crois pas, mais ami, probablement.
Il s'appelle La réaction, c'est la vie.
La réaction, c'est la vie. Je trouve ce titre magnifique parce que
c'est vrai que le terme, j'ai repris ce terme de réactionnaire qui était appliqué de façon critique à la droite nationale, enfin à la famille d'esprit, en tout cas dont je me réclame. En fait, ce terme de réactionnaire, c'est un très beau terme. Les organismes qui ne réagissent pas sont effectivement des organismes qui meurent. Et le SIDA, par exemple, c'est la maladie. La perte des défenses immunitaires, c'est donc la maladie d'un organisme qui est privé de réaction.
Très bien que quand on veut voir si une huître est fraîche, il faut juste mettre un peu de citron dessus pour voir si elle réagit. Et si elle ne réagit pas, on la fout à la poubelle.
J'ai vu ça devant une Anglaise charmante une fois qui m'a dit « Mais Patrick, est-ce que ça veut dire que j'avale cette chose vivante ?»
Il faudra faire un cours spécial de formation gastronomique pour ces gens-là. Merci Bruno d'être venu passer cette première
partie
avec nous. Et puis à très bientôt, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour discuter de l'actualité.
Certainement.
Est-ce qu'on peut écouter un bout de musique pour faire la valse des chaises ? J'avais demandé une virgule sonore, mais je pensais pas que ça serait aussi funérailleux, cette virgule. C'est beau, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, non? Je sais plus ce que c'est. J'ai vaguement reconnu. C'est du classique, comme disait ma concierge. Donc, je reçois deux écrivains et un journaliste. Mais le journaliste vient en appui à mon ignorance crasse et à ma médiocrité intellectuelle. Le journaliste, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. C'est Christian Brosio. C'est trop humain, mon cher confrère. qui est une des âmes. Bah oui, c'est Prokofiev, bien sûr, Roméo et Juliette, que je suis bête. Doctus cum libro.
Vous êtes brouillé avec Roméo, Juliette et Prokofiev.
Christian Brosio, qui est un des fleurons du groupe Valmonde.
Fleuron, ça j'en sais rien.
Le spectacle du monde.
Oui.
Belle revue. Oui. Et qui nous a amené, parce que voilà, la véritable raison pour laquelle il est là, c'est pas simplement pour recevoir des compliments, c'est qu'il a attiré mon attention sur un livre que j'avais reçu, mais sans y prêter une attention particulière, parce que un roman historique encore, bon voilà, je suis pas contre, mais c'est plutôt pendant les vacances, et qui s'appelle La Furia, dont l'auteur s'appelle Philippe Bornet. Et chose pittoresque, inattendue, étrange, il n'est pas du tout historien, pas du tout écrivain professionnel, encore qu'il ait publié plusieurs fois, et il est ophtalmologiste et chirurgien.
Eh oui, c'est tout l'attrait, si j'ose dire, de la chose.
Il écrit bien, un médecin qui écrit bien.
Et en plus, oui.
Et alors, je reçois également Éric Lebec, qui lui a écrit un livre aussi, alors très intéressant, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Le repère de la loutre.
C'est le chouchou du Libre Journal, on l'a encensé deux fois.
Deux fois, mais on y reviendra une troisième parce que c'est vraiment un livre exceptionnel.
Merci.
Alors, je commence par Philippe Bornet. La question qui s'impose, c'est évidemment c'est la question que j'amorçais à l'instant. Qu'est-ce qui conduit un chirurgien et ophtalmologiste à écrire un livre sur Napoléon, enfin autour de Napoléon?
Ben parce que le chirurgien en question est tombé dans la marmite il y a longtemps, c'était en 1983, et j'ai eu d'ailleurs à l'occasion de cette entrée comme journaliste dans le groupe Valeurs Actuelles Spectacle du Monde, l'occasion déjà de faire la connaissance de Christian Brosio. Alors vous savez qu'en médecine, l'écriture est quand même une tradition. Il y a beaucoup de médecins plus célèbres que moi qui ont écrit et qui sont des modèles. Donc bien écrit,
Céline.
Je pense en effet à Louis-Ferdinand Céline, qui a écrit, comme vous savez, une thèse qui a marqué une date dans l'histoire de la médecine, mais qui après s'est révélé un remarquable romancier. On n'écrit pas après Céline comme on écrivait avant Céline, de la même manière qu'on n'écrit pas après Chateaubriand comme on a écrit avant Chateaubriand. Donc essayons de suivre le sillon des grands ancêtres.
Et alors vous avez pris un parti qui est assez rare dans le roman historique, c'est-à-dire que vous avez instillé en quelque sorte de l'histoire intime dans la grande histoire pour en faire un roman historique. C'est-à-dire que les deux aspects sont historiques.
Ouais,
tout ce qui est du domaine de l'intimité de Bonaparte est fondé historiquement, tout ce que vous racontez est fondé historiquement. Et tous les événements que vous racontez, puisque c'est la campagne d'Italie, sont connus au moins en gros, et ils sont également fondés historiquement. Et ce qui est très étrange à la lecture, c'est que on a l'impression que il y a la conjugaison de deux chemins d'histoire qui conduit à faire un roman historique. C'est pas courant. En général, on prend un fait historique avéré et puis on installe autour une vague ou une lourde anecdote imaginée. Mais là, c'est pas le cas.
Et ce qui est extraordinaire également, c'est que dans toute la trame historique, tout le récit historique de la campagne d'Italie, enfin de la première campagne d'Italie, hein, puisqu'il nous emmène du 10 mars 1796 au moment où le jeune général général Vendémiaire est nommé à la tête de l'armée d'Italie, et ça nous conduit jusqu'en mai 1797 quand les Français entrent à Venise. Eh bien, et c'est vraiment, on a l'impression de lire une espèce de journal en fait de cette campagne d'Italie, pas au jour le jour, mais quasiment semaine après semaine. Et Philippe Bornet procède par le dialogue, et il met en scène tous les protagonistes de l'affaire, les protagonistes français, Bonaparte et son état-major, les Autrichiens, les Sardes, les Napolitains, et puis il y a des flashbacks, enfin, il y a également des coups de projecteur sur ce qui se passe à Paris, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que concernant la campagne d'Italie elle-même, toute l'histoire militaire de cette campagne, il nous l'a fait comprendre de l'intérieur par le jeu des dialogues. Oui. Car chacun des protagonistes explique ce qu'il va faire, commente la stratégie de l'adversaire, etc. Et ça, je dois dire que c'est un coup de force assez remarquable.
Alors, ce parti a déjà été pris par d'autres auteurs, mais... Bien sûr. Là, il n'est jamais pesant. Non. Il n'est jamais démonstratif. Le défaut de ce genre de choses, c'est que bien souvent, on fait parler des généraux qui expliquent leur campagne, et c'est extrêmement ennuyeux parce qu'en fait, c'est tout simplement un rapport qu'on leur met dans la bouche. Et là, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais je crois que l'explication du sentiment de légèreté qu'on a à la lecture, c'est lié à la dimension humaine que vous donnez à Bonaparte.
J'essaie parce que je pense avoir une certaine intuition du personnage, de ses qualités, de ses défauts. Je pense, comme on dit, avoir bien senti mon personnage. Et pour revenir au point que vous soulignez, je ferai remarquer à Christian Brosio, qui a une formation d'historien avant tout, que écrire l'histoire sous forme de dialogue recomposé, c'est une tradition qui remonte à Hérodote.
Oui,
bien sûr.
Et par conséquent, finalement, c'est une forme de style, une manière d'écrire l'histoire qui s'est perdue, tout simplement. Mais on peut très bien la reprendre à son compte et en faire un élément littéraire.
Mais vous parlez tout à l'heure des grands ancêtres, enfin des écrivains, Céline, Chateaubriand, mais dans le domaine proprement historique, dans la tradition des médecins historiens, il y a évidemment Cabanès, le docteur Paul Gagnère, plus récemment, ou le docteur Jean-Claude Laburte. Tu as connu Serge Jean-Claude Laburte, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est un ami de Jean-François Kiap. C'était un personnage assez étonnant, qui était très drôle.
Mais Cabanès, c'est passionnant.
Mais Cabanès, c'est passionnant aussi.
Et alors, il y a un peu chez vous de ça.
Il y a un peu de ça, oui.
Parce que il y a un peu la recherche du ressort psychologique ou du ressort, on dirait presque psychiatrique dans ce cas-là. Parce que, est-ce que vous aimez Bonaparte? Est-ce que vous avez de la sympathie ou de l'admiration ou de la considération?
Mais je suis content de savoir que vous hésitez. Je suis content de le noter parce que ça prouve que le roman ne prend pas parti finalement. Pour être tout à fait franc, j'aime bien Bonaparte. Plus exactement, je suis fasciné par lui.
C'est-à-dire que j'éprouve comme deux sentiments. Vous aimez bien Bonaparte et vous détestez Napoléon?
Oh non, pas du tout. J'aurais tendance, au contraire, moi, à préférer Napoléon à Bonaparte, si c'est possible. Pour tout un tas de raisons, en particulier politiques, parce que je pense que, contrairement à ce qu'on ait pu dire, et y compris Pierre Larousse, Bonaparte n'a jamais été un démocrate. Ni au début de sa carrière, ni à la fin. Alors, il a faim de l'être, hein, parce que les circonstances, en particulier au moment du 18 Fructidor, faisaient qu'il était l'ennemi des Bourbons pour des raisons d'ambition politique tout à fait personnelle. Mais je ne pense pas que... Non, que j'aime bien Napoléon autant que Bonaparte.
Est-ce que vous partagez l'opinion de ceux qui disent que... Au 18 Brumaire, Lucien aurait pu enlever le morceau.
Ah, Lucien, c'est quelqu'un de très très fort, en effet. Parce que, n'oublions pas qu'il était quand même président du Conseil des 500, c'est-à-dire c'était une sorte de président de l'Assemblée nationale. Il était le deuxième personnage de l'État, d'une certaine manière. Enfin, non, je raisonne comme si nous étions avec la Constitution de 58. Mais enfin, c'était quand même un personnage très important. Et il ne devait rien de son ascension à son frère. Il avait été nommé député sans son appui. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Vous savez que Lucien s'est brouillé avec son frère, ayant été nommé ministre de l'Intérieur après le coup d'État du 18 Brumaire. Et puis après, comme ce sont... Il n'y a pas de place pour deux hippopotames dans le même marigot. Ils ont le même caractère, le même mauvais caractère. Et donc Lucien s'efface complètement et ne reviendra qu'en 1814 pour partager les mauvais coups. Parce qu'il y a une certaine noblesse.
Oui, c'est un personnage... Moi, je préfère Lucien, à vrai dire. J'aime mieux Lucien.
Lucien est un personnage attachant. Il était quand même un peu coquin. Il a beaucoup tripatouillé quand il était ambassadeur dans les comptes et
des choses,
pas mal détourné d'argent quand même.
Alors l'aspect aussi très intéressant de ce livre, c'est le côté presque pathologique de ces relations amoureuses.
Oui. Et je pense que Bonaparte n'est pas un homme qui sait parler aux femmes, pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il finalement il en a connu très très tard. Vous savez qu'il a une aventure avec une prostituée au palais royal quand il est à l'école militaire, mais surtout il vit dans un monde d'hommes. Il est dans un collège militaire, et je pense que de toute manière il n'était pas tellement préoccupé par la bagatelle. C'était pas vraiment dans son caractère. Donc il y a une femme qui tient énormément de place dans sa vie, c'est sa mère. Et marqué comme tous les jeunes Italiens par la forte personnalité de Laetitia, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec Joséphine, il a connu un échec sanglant. Je pense qu'il était très profondément, passionnément amoureux de Joséphine.
Ah oui, ça c'est.
C'était une passion sexuelle avant tout.
Ce que j'appelle pathologique à ce point.
Oui, c'était de l'adolescence prolongée.
C'est très étonnant de voir, et en même temps de voir comment cet homme qui est dévoré par une espèce de prurite sexuelle dément au moment où il est engagé dans un combat d'où dépend tout son avenir, il arrive à conduire ces deux choses.
Oui, en parallèle, finalement.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une imprégnation de sa politique ou de son comportement de général, plus exactement, par ces espèces d'obsessions? Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de compensation qui se passent?
Ah, c'est possible. C'est possible parce que sa grande ambition est de posséder et de dominer. Alors, ce qui plaît rarement aux femmes, en tout cas certaines d'entre elles, réussit mieux aux États, surtout lorsqu'on a une épée bien affûtée et qu'on sait s'en servir. Il y a dans cette espèce de fureur, d'où le mot furien, vous savez qu'en italien, furia, c'est pas tant la fureur,
c'est l'enthousiasme.
Non, justement, ce sens existe, mais il est au deuxième plan. Furia, c'est avant tout la vitesse.
Ah oui.
La célérité, la rapidité. Et par conséquent, cette furia amoureuse, cette rapidité, ce besoin de domination, il a trouvé des possibilités de l'assouvir dans son rôle de général.
C'est donc un phénomène de compensation.
Bah, je pense.
Il n'arrive pas à conclure, comme aurait dit Michel Blanc.
Mais je pense au contraire qu'il concluait trop vite. C'est du moins le reproche que lui ont fait certaines dames.
C'est le bruit qui court.
Monsieur, 3 minutes, douche comprise, déjà.
Et alors, dans ce roman, il y a, puisqu'on parle de Bonaparte et des femmes, et de ses relations, évidemment, avec Joséphine, il y a cet autre personnage féminin qui domine le roman dans Joséphine, c'est, je dois dire... Alors là, je pense que c'est de l'ordre du roman.
Complètement du roman.
C'est un personnage-là qui était inventé par vous, mais qui avait un personnage tout à fait envoûtant, c'est la fameuse comtesse Vendramin, qui est au centre...
Vendramin,
qui est au centre de tous les complots royalistes, enfin contre-révolutionnaires.
Mais moi, je suis certain qu'elle a existé.
On a l'impression qu'elle a existé.
Absolument, mais
moi, j'ai l'impression, en lisant tous les passages concernant cette comtesse... avoir lu des pages la concernant chez Cabanès, justement.
Voilà.
Où
c'est... Alors, j'allais dire ça, Christian. J'ai fouillé dans ma bibliothèque pour me dire que c'est pas possible, ça doit correspondre à quelqu'un qui existait.
Mais vous savez, quand j'en ai parlé au général Lacaze qui m'a fait la préface, quand il a tout relu à la fin pour me donner son imprimatur, si j'ose dire, du point de vue technique, il m'a dit, mais n'oubliez pas qu'il est quand même l'ancien patron de nos services secrets, et il m'a dit, mais attendez, cette comtesse Vendramine, mais... elle a existé. Et je lui dis non, mon général, elle n'a pas existé, c'est moi qui l'ai inventée. Ah, il dit c'est vraiment dommage. Et il m'a dit, mais vous savez, je crois qu'elle couche avec Bonaparte, parce que croyez-moi, j'ai l'habitude de ce genre de choses et vous pouvez en croire mon expérience.
Il y a cette scène aussi sidérante, c'est cette partie d'échec entre Bonaparte et la comtesse à Venise.
Voilà, alors la partie d'échec, c'est un peu le
clou. C'est un peu le sommet, je trouve, de l'intrigue romanesque.
Alors, est-ce que pour cette partie d'échec, vous vous êtes fait assister d'un
Il y a une partie authentique avec Madame de Staël, crois, et que j'ai étudiée quand mon fils faisait des compétitions d'échecs, et qui est tout à fait remarquable.
Ah bah, si vous en avez copie, j'aimerais bien la voir, parce que j'ai vu une partie d'échecs avec Gourgaud à Sainte-Hélène, mais je n'avais pas connaissance de cette partie. Alors, je me suis fait aider, en effet, par un grand maître, et la partie a été véritablement jouée, me semble-t-il, il y a un an et demi au championnat d'échecs de Paris.
Alors ça, c'est regrettable parce que le style a complètement changé.
Le style de
donc
la partie
pour une réédition, il vaudrait mieux vous appuyer sur le style de jeu, bien sûr.
Oui, mais la partie a été faite, elle a été jouée.
Donc c'est un anachronisme. Elle a été jouée il y a un an. Donc pour la réédition, vous vous appuierez plutôt sur cette partie historique avec Madame de Staël.
Je pense honnêtement que peu de gens s'en seront aperçus. Parce que le jeu d'échecs était beaucoup plus offensif et beaucoup moins défensif il y a un siècle et demi qu'aujourd'hui. Donc il y avait une espèce de romantisme de l'offensive.
Enfin, je ne suis pas du tout certain que peu de lecteurs s'en sont aperçus, parce que
le docteur Bornet appelle son livre Fourria, il est parfaitement justifié que sa partie d'échec soit plus offensive que défensive.
Oui, mais justement.
Et donc elle n'est nullement anachronique.
Elle n'est pas anachronique.
Si je peux me permettre de contredire M. Goffman.
L'anachronisme, il est dans le fait qu'il a été joué il y a un an.
Oui,
c'est-à-dire avec peut-être un style de jeu qui est un style moins actuel.
Dans l'offensive comme dans la défensive, Éric Le Bec.
C'est vrai, mais elle était tellement belle que, et puis originale, n'oubliez pas, parce qu'elle n'a pas été ni éditée ni publiée, donc je suis en quelque sorte le seul à avoir l'autorisation de la publier, et donc je dirais que c'est une œuvre originale, ce qui quand même participe au charme.
J'étais sûr qu'on aurait un incident.
J'ai fait pire, laissez-moi le confesser en 3 secondes, dans mon roman Cœur de cuir, j'ai attribué à 2 jeunes trotskistes de 1968 une partie que je venais de jouer et de perdre contre mon ordinateur. Oui, j'ai fait bien pire.
Le romancier a le droit de faire des choses comme ça.
Et surtout quand elles sont conformes à son intention.
Absolument.
Pour en finir, avec cet aspect de la question, est-ce que, à travers cette partie d'échec, vous avez réussi à exprimer des aspects de la personnalité vous avez cherché à exprimer des aspects de la personnalité de
Bonaparte? Bien sûr. C'est-à-dire que
la
partie commence par une offensive des blancs, puisque Bonaparte a les blancs et la comtesse a les noirs, et jusqu'au milieu de la partie, on a l'impression que la partie va être gagnée par Bonaparte. Tout le monde s'y attend naturellement. Et puis il y a un reversement de situation en plein milieu, alors que les blancs ont l'avantage numérique. Et donc au dernier moment, le bluff de Bonaparte va échouer contre une volonté qui est en même temps le contraire de lui-même, mais qui est en même temps la volonté d'une femme qui lui ressemble. Parce que, je le dis d'ailleurs carrément dans mon roman, je dis à un moment que la comtesse Vendramin est une femme qui a un cerveau de joueur d'échecs sur un corps de déesse. Et par conséquent, elle est... avec Bonaparte comme le yin et le yang. C'est la revanche des femmes, la comtesse Vendramin.
C'est un livre qui devrait parler aux femmes, alors.
On y parle beaucoup de guerre, mais je pense en effet qu'il y a... Mais j'ai des lectrices féminines. Alors, de deux choses l'une. Ou bien la lectrice, je dirais, n'a pas grand sens de l'orientation dans l'espace, auquel cas elle ne s'intéressera vraisemblablement pas tellement à l'aspect militaire, mais il y a des femmes qui apprécient ce récit militaire et qui m'en ont dit du bien.
Puisqu'il y a un aspect du livre, à travers ce que vous venez de dire, qui vient de me venir à l'esprit. C'est un livre en poupée russe.
Oui.
C'est-à-dire que part d'un personnage qui est Bonaparte ou de la comtesse, et que on monte à chaque fois d'un niveau dans le point de vue. Enfin, comme si on s'élevait sur une montagne, on voit qu'il s'agit de d'univers qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui sont en quelque sorte chacun la réduction de celui qui est au-dessus. C'est exactement une matrioshka.
Ouais, c'est ça.
Et la partie elle-même est une espèce de résumé du livre en entier.
Oui.
La partie d'échec,
bien sûr, bien sûr.
Le résumé du livre.
C'est à la fois le résumé et le point d'orgue du livre dans sa main.
C'est remarquable. L'importance de l'écriture est-ce que vous mettez l'écriture au premier plan? Est-ce que vous écrivez pour écrire, pour le bonheur d'écrire, de construire des phrases, ou pour raconter une histoire?
Ah, je hais l'écriture. Je suis l'ennemi du style et j'ai passé, comme journaliste, 10 ans de ma vie à me torturer par ne plus en avoir. Donc j'aimerais que certains écrivains m'imitent et je pense, comme Aristote...
Il y en a pas mal qui arrivent très bien.
Je l'espère, mais force est de noter qu'ils sont relativement peu nombreux. Donc ma théorie est celle d'Aristote dans son fameux livre sur l'art. Je pense que l'art dramatique, mais aussi l'écriture, consiste tout simplement à imiter l'action, disait Aristote. Donc je vais peut-être dire très américain dans mon écriture, c'est-à-dire que je pense que le suspense, le récit de l'action, la précision des faits doivent être le soubassement de cette architecture qui doit s'élever. Si après on veut décorer avec des tableaux, c'est encore mieux naturellement, mais je pense qu'écrire, c'est d'abord avoir un bon plan, faire des phrases courtes avec des sujets, un verbe et un complément.
Ça déjà, c'est le commencement du style.
Vous écoutez oui. Radio Courtoisie.
Merci Philippe Bornet. Alors, ce livre s'appelle La Fouria et je recommande vraiment la lecture. C'est le livre idéal.
Oui.
Enfin, c'est un des livres parfaits.
Parce que là, Serge, nous sommes depuis 1996, nous sommes entrés dans les années napoléoniennes et on en a jusqu'à 2015. Donc il y a une flopée déjà, évidemment, de bon, je parle pas d'une flopée de livres, les dizaines de milliers de volumes qui sont là. Qu'il y a eu sur Napoléon, Bonaparte et Napoléon depuis le 19e siècle, mais depuis 96, il y a de nouveau une inflation évidemment éditoriale sur Bonaparte et Napoléon, et ce n'est pas fini. Et j'ai trouvé à la lecture de ce roman qu'actuellement c'est à mon avis deux livres qu'il faut avoir lu sur la campagne d'Italie, ce à quoi on ajoutera également les deux remarquables numéros du Figaro hors série réalisé par Michel de Gégère et paru en décembre et janvier dernier, et qui sont tout à fait époustouflants et qui offrent un panorama absolument complet sur l'aventure de Bonaparte en Italie, puis le consulat et l'Empire.
D'ailleurs, l'idée, c'est effectivement de lire Fouria en ayant les
oui, en ayant les deux numéros, et éventuellement, si on veut pinailler et creuser concernant la campagne d'Italie, je ne sais pas s'il en reste encore, mais l'atlas de la première campagne d'Italie que Michel de Gégère avec Jérôme Grasselli avait publié en 2001. Aux éditions Valmonde.
Et c'est aux éditions France Empire qui est paru
La Fouria Empire, oui.
Qui est paru La Fouria de Philippe Bornet.
Merci beaucoup Philippe Bornet.
Merci. Alors,
vous préparez autre chose?
La suite.
Très bien. Alléluia. Pour l'année prochaine, donc.
Peut-être pas pour l'année prochaine.
Merci, Christian Brosio. Oui, je vais vous donner la parole, Monsieur Goffman, mais j'ai d'abord la même parole à donner à quelqu'un qui est aussi un ami.
Je m'agitais seulement pour ne pas être complètement oublié, ni moi, ni le Libre Journal, que vous aimez bien aussi, Serge.
Oui, je ne suis pas contre, absolument. Monsieur Anthony, vous êtes au téléphone?
Je suis au téléphone.
Alors, je vais chausser, attendez, les écouteurs, parce que c'est vrai que je ne vous entends pas. Allô?
Allô, je vous entends très bien, moi.
Alors, Bernard Anthony, on va pas parler du grand sujet, puisque vous avez publié récemment un entretien dans Présent.
Dans entretien, Présent, effectivement, du vendredi 11 septembre.
Vendredi 11 septembre, dans lequel vous expliquez...
En juillet,
qu'est-ce qu'il faut dire?
11 juillet,
oui,
pardon.
Vous allez un peu vite en besogne.
Oui.
Mais le 11 septembre, c'est vrai, c'est aussi la chute des tours, donc on comprend un peu la confusion. Vous avez donc expliqué dans ce numéro de Présent du 11 juillet les raisons qui vous avaient fait quitter le bureau politique du Front National, mais le bureau politique. Mais on va pas parler de ça, on en parlera à la rentrée, à tête reposée. En revanche, j'aimerais bien qu'on parle en quelques mots d'un des propos que vous tenez dans cet entretien et qui m'a beaucoup troublé, qui m'a beaucoup étonné. J'ai trouvé ça étrange, inattendu. Vous faites une allusion à cette Cédric Dajaja.
Oui.
Que vous présentez comme le modèle de une espèce de Jeanne d'Arc libanaise, en quelque sorte.
Exactement. Hein? Oui, enfin, pas trop loin.
Non, enfin, Jeanne d'Arc, c'est difficile, puisque c'est une femme mariée, mais une héroïne, héroïne politique et héroïne de la résistance libanaise.
Oui.
Et alors, j'ai trouvé que c'était étrange que dans un entretien qui portait sur un fait politique français, purement français, c'est-à-dire la raison pour laquelle un des dirigeants d'un mouvement politique se retire du bureau politique, vous faisiez intervenir un personnage qui, au fond, n'a rien à voir avec la vie politique française. Pourquoi avez-vous fait ça?
Non, mais parce que c'est une question qui m'est posée. Alors, attention, si vous permettez quand même un tout petit mot sur cet entretien. Cet entretien, j'en remercie d'ailleurs bien vivement le journal présent, Alain Sanders et Jeanne Smith, m'a permis d'éclairer, je crois, de la manière la plus claire, une décision qui relève de ce que j'appellerais le coup de gueule. Il y a des moments où, pour se faire entendre, on est obligé de procéder à certains actes bien pesés. C'est cela donc que je voulais faire, et le journal présent m'a aidé à bien expliciter mes motivations, parce que je ne veux plus aujourd'hui, moi en tout cas, chanter comme les dirigeants du Front National l'ont fait pendant des années, tout va très bien, madame la marquise, alors que tout de même le feu n'était pas encore au château, ni même dans les écuries, mais que le torchon brûlait déjà fortement entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Alors, pendant des années, j'ai été le défenseur, j'allais le dire, non seulement de l'orthodoxie du programme du Front National, mais aussi de Jean-Marie Le Pen, dont je suis un ami, mais l'amitié, ça ne veut pas dire l'inconditionnalité. Or, évidemment, je suis très chagriné d'un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes, à mon avis, à ce que devrait être un grand mouvement politique pour défendre nos convictions fondamentales sur la vie, le respect de la vie, la souveraineté de la patrie. Donc, j'ai voulu exprimer par là que ce n'était pas, par exemple, avec un bureau politique de 50 personnes que l'on pouvait valablement discuter de la direction d'un mouvement. Bon, alors, je ne m'étends pas, puisque je reviendrai à la rentrée, mais les journalistes de présent m'ont posé la question, y a-t-il un personnage politique aujourd'hui derrière lequel vous vous rangeriez avec enthousiasme? Et j'ai voulu marquer là mon dépit français. En France, bien sûr, je suis fidèle au Front National, comme je l'ai dit, dans l'esprit qui a toujours été le mien. Je défends d'abord des idées, et Dieu sait les grands, mes frères, le lepénisme qui est le mien n'est pas de la lepénolatrie. Et alors ensuite, j'ai beau chercher. Je ne trouve personne aujourd'hui en France, pour l'instant, je ne sais pas derrière lequel ou laquelle je me rangerai volontiers. Or, il y a seulement quelques semaines, j'étais encore dans ce pays du Liban qui m'est si cher, et je suis aussi le président de Chrétienté Solidarité. Et là, oui, je dois dire, il y a un personnage qui me fascine, elle est l'épouse de mon ami Samir Jaja. Samir est un homme extraordinaire. À sa 9e année de prison, condamné à mort à 2 reprises, Dieu merci, il a eu des avocats français, c'est l'honneur de Valorant Saint-Just et de notre ami Patrimonio qui est mort aujourd'hui, que de l'avoir défendu, de lui éviter certainement le pire. Mais depuis 9 ans, il est dans le second sous-sol du ministère de la Défense nationale. Et sa jeune épouse, Cetrida, qui a 20 ans de moins que lui, qui est une fille extraordinaire de gentillesse, de beauté, de générosité, dont trouve le moyen de le visiter 2 fois par semaine, de maintenir son héritage politique. Et elle est elle-même, avec toute la grâce qu'elle peut avoir, un chef politique né. Elle a de l'autorité, elle est souriante, elle est bonne. Elle a autour d'elle des milliers de jeunes gens. Alors je me dis, ce pauvre Liban martyr qui a eu ses 130 000 morts est encore capable de mettre autour de Cetrida, c'était le 28 juillet dernier, 50 000 jeunes gens devant la grande esplanade du patriarcat maronite de Pierre. Vous comprendrez qu'on peut rêver de cela et rêver d'un mode d'exercice du pouvoir dans la clarté qui exclut les hiérarchies parallèles qui me conviennent parfaitement. Alors je rassure les auditeurs de Radio Courtoisie, je sais qu'ils savent, eux, le rôle de la France, que le nationalisme français que je professe avec vous, Serge Zébetech, n'est pas le repli, et que face aujourd'hui à l'islamisation de notre pays, on doit être conscient aussi de la nécessité de résister partout dans le monde à l'islamisation. Alors donc, je trouve un modèle ailleurs, hélas il n'est pas transposable, j'en conviens, dans notre pays, mais il ne faut désespérer de rien. Et effectivement, et il y a eu des centaines, des milliers de jeunes Libanais qui sont morts. Ils ont donné, permis que cette cause soit défendue par des chefs admirables. Eh bien, j'espère qu'un jour, effectivement, si Dieu le veut, et il faudrait pour cela que les Français retrouvent les mérites de leurs ancêtres, si Dieu le veut, il faudrait que revienne Jeanne d'Arc.
Merci Bernard. Alors on se voit à la rentrée pour une discussion plus approfondie, mais je crois que ce que vous venez de nous dire offre déjà un bon sujet de réflexion et de méditation.
Merci
aux citoyens français et aux nationaux français.
Aux amis qui m'écoutent, une information, le mercredi 3 septembre, ça sera la rentrée du Cercle d'amitié française de l'Île-de-France. J'invite bien volontiers tous les auditeurs de Radio Courtoisie, et j'espère que vous serez d'ailleurs là, vous-même, Serge de Bekech, dans l'amitié française qui nous est chère et qui nous permet de transcender quelquefois des petites divergences secondaires pour notre plus grand plaisir à tous.
Merci Bernard. À très bientôt.
Bonsoir Serge.
Au revoir. Voilà, moi j'aime beaucoup Bernard Antony parce que voilà, c'est cette espèce de pensée politique extraordinairement vivace, rapide, bondissante, spontanée, qui fait que au milieu d'un problème franco-français, il lance un personnage comme ça, qui est Chetrida Jaja, qui est effectivement un personnage extraordinaire, inimaginable en France. Et il a ce talent, comme ça, une espèce de génie des coups, des personnages, des... Voilà. C'est pour ça que j'aime bien les rendre entre autres raisons innombrables. De même que j'aime bien Éric Lebec parce qu'il a écrit un très beau livre. Alors là, vraiment très très beau. Alors, tout à l'heure, Philippe Bornet disait tout le mal qu'il pense du style, mais je suis obligé de dire quand même que une des qualités de votre livre, Éric, c'est le style qui est extraordinaire.
Ce livre s'appelle, si vous me permettez, Le repère de la loutre, et il est paru aux éditions L'Archipel.
Oui, autant le dire tout de suite. Alors, il est d'une écriture vraiment extraordinaire, exceptionnelle. Il est d'une écriture d'une tension, d'une précision, et c'est indispensable étant donné le sujet. Enfin, si tant est qu'on puisse définir le sujet, d'ailleurs, parce que c'est un livre de vénerie. Au fond, c'est un livre de chasseur.
Oui, c'est un livre de chasseur. La loutre est le dernier grand fauve qu'on a pu chasser en France, en le chassant par les moyens naturels de la vénerie, c'est-à-dire en opposant des hommes et des chiens à un fauve qui connaît admirablement son territoire. Alors, cette loutre est un personnage symbolique. Le premier titre, d'ailleurs, c'était La loutre blanche, et puis Jean-Daniel Belfond, mon éditeur, a trouvé que c'était un petit peu obscur, et il a eu cette bonne idée du repère de la loutre, qui s'écrit le repère A-I-R-E, mais qui pourrait s'écrire aussi E-R-E.
C'est un repère. Parce que c'est vrai que on constate ça dans beaucoup de livres, d'ailleurs. Je le disais tout à l'heure à propos du livre de Philippe Bornet, que c'était un livre en matrioshka, et vous, c'est un livre aussi avec... c'est pas en poupée russe, mais c'est plutôt en personnages et en événements qui se répètent sur des plans différents. Le rôle de du fauve, cette espèce de chasse, mm-hmm, qui commence tragiquement le livre, elle se reproduit d'une certaine manière dans un des aspects du bouquin qui est l'aspect religieux. Et elle se reproduit aussi dans
l'intrigue de vénerie sert de clé à d'autres intrigues.
Qui sont aussi des histoires de chasseurs, finalement, oui, ou de chassés.
Ou de chasseurs, ou de chasseurs de vérité, de...
Chasse
à l'homme.
Oui, parce qu'il y a...
Chasse à l'argent, il faut dire, chasse à l'amour.
C'est un livre qui se passe entre 1950 et nos jours.
Au fin fond de la Bretagne, ça relève de ce que j'appelle la nostalgie rurale, et qui est un genre très apprécié et très vendeur, souvent.
Oui, alors je suis en désaccord total
avec
vous deux.
Ça ne lui plaît pas du tout, là.
D'accord total avec vous.
C'est très bien.
Tant mieux. C'est pas grave. D'abord parce qu'effectivement le livre comprend deux périodes, 1950 et 1966, qui sont les périodes du récit, mais ce sont des périodes de récit qui sont pétries de souvenirs. Et finalement, on mesure le désastre fondamental de la guerre de 14-18 sur nos sociétés aristocratiques, bourgeoises, paysannes, qui vivaient mélangées et arc-boutées et sans entre-soutenant les unes les autres, et là il y a un monde qui a disparu.
Oui, mais le monde de 14-18 disparaît pas en 18, il disparaît en 50.
Il disparaît en 50 et en 66. Voilà. Avant 68, si vous voulez.
Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la chasse à la loutre, elle préfigure l'autre chasse, la chasse à l'homme, qui va se dérouler dans le même cadre. Et puis, elle a quelque chose d'évocateur de la chasse à la vérité ou la chasse au mensonge qui est menée par ce religieux qui est... On ne sait pas s'il est gibier ou chasseur.
Oui, ce père Anselme qui est en fait un personnage, comme souvent les personnages romanesques, composé de plusieurs personnages réels. Il y a le cardinal Oddi, je crois que vous l'avez connu.
Oui, bien sûr.
Feu, le cardinal Oddi, qui était un cardinal de feu. un cardinal incendiaire, presque pyromane même quelquefois, extraordinaire, extraordinairement courageux, extraordinairement romain. Je me souviens un jour, il revenait d'une réunion et il me dit voilà, ils ont décidé que finalement pour le carême, au lieu de jeûner, on pourrait donner une aumône. Alors, tu comprends ça? Alors, je dis, monseigneur, je ne comprends pas tout ce que dit votre éminence, mais j'écoute votre éminence. Bon, j'étais évidemment assez prudent devant quelqu'un comme lui. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et pour lui, ce qui comptait, c'était le mystère de Dieu. Est-ce que Dieu était satisfait, après tout, qu'on fasse une aumône au lieu de jeûner? Alors qu'il avait demandé 50 fois dans l'Écriture que l'on jeûne. Ce qui n'est pas la même chose que de faire une aumône.
Et, en plus, qu'on fasse des aumônes.
Oui, qu'on fasse des aumônes en jeûnant, c'est-à-dire qu'on économise sur la nourriture pour donner aux pauvres, c'est encore une autre démarche. C'était, voyez, et je crois qu'il y a un thème qui est dans la vénerie, qui est où est l'animal? Qu'est-ce que fait l'animal? J'ai beaucoup, beaucoup chassé à court. Énormément. Mais comme autrefois, avec mes chiens et un camarade, enfin les chiens d'un camarade, les chevaux d'un autre, on était trois, quoi. Bon,
c'est ça le secret de la belle chasse.
C'est le secret de la belle chasse.
Donc, comme les maisons, comme les maisons de campagne.
Voilà, c'est ça. Il y avait personne que nous et les chiens, quoi, enfin seuls. Et où est l'animal? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi est-ce qu'il pense? Quelle est la ruse diabolique qu'il est en train de nous faire? Et ce père Anselme, qui est un peu le cardinal Oddi, qui est aussi un peu le père de Montléon, le bénédictin, est mort depuis longtemps, et puis aussi le père de Sainte Madeleine, qui a travaillé à l'Annonciation à Paris. Alors là, il y a des événements, des éléments d'information sur la vie du futur Jean XXIII à Paris, etc. Donc, ce sont des gens qui cherchent des mystères. Et ils cherchent la vérité, ils cherchent à savoir, comme on cherche où est l'animal de chasse. Et quand on est très fort, eh bien, on finit par penser comme une loutre. Je précise que la loutre ne se chasse plus ni à court, ni autrement, ni par piégeage, depuis très très longtemps, pour mille et une raisons, parce que les cours d'eau, et les cours d'eau bretons en particulier, sont totalement pollués par les laiteries, par les papeteries, par maintenant les porcheries. Le pays breton est un pays profondément saccagé. Je viens d'apprendre, et c'est une nouvelle extraordinaire, que les grands magasins Leclerc viennent d'ouvrir des centres culturels, et dans ces centres culturels, ce livre, mon livre, et puis quelques autres, est mis à l'honneur, et on me demande toutes sortes de signatures, etc. Il y a peut-être un renversement qui se fait, là, j'espère. Bon, c'est une bonne nouvelle, d'abord pour l'éditeur qui va vendre des livres, pour moi secondairement, mais espérons un peu, malgré tout, pour que la Bretagne retrouve quelque chose de sa qualité, qui est... Songez qu'aujourd'hui, on donne du cuivre aux cochons pour qu'ils soient roses, comme les trois petits cochons roses de Walt Disney, et que ce cuivre est donné en surabondance au point que les moules qui sont dans la mer, bien loin de ces cochons, sont devenus toxiques. Parce que le cuivre est un métaux lourd, cancérigène, enfin, il ne faut pas le manger, quoi. C'est tout.
On est fous.
Bon. Donc, si vous voulez, ce père Anselme, oui, il impressionne pas mal les lecteurs, mais il y a d'autres personnages qui intéressent.
Il y a toujours cette idée du chasseur et du chassé. Parce que c'est une intrigue policière, il faut le dire.
Oui, est-ce qu'on peut en dire un mot de l'intrigue sans la déflorer pour donner un peu aussi aux auditeurs de lire ?
On peut dire tout ce qu'on veut. Il y a une intrigue symbolique qui est la loutre, qui est l'animal, c'est-à-dire dans notre humanité, nous sommes des mammifères, on est plantigrades, nous sommes des fauves, des omnivores, comme la loutre. Donc nous sommes aussi aquatiques, comme la loutre, donc il y a une recherche de soi-même à travers ce personnage animal, qu'on retrouve évidemment la loutre qui est blanche, c'est l'hermine, qui n'est pas blanche en Bretagne d'ailleurs, elle n'est blanche que sur les armes, mais en Bretagne elle ne fait pas assez froid pour qu'elle devienne blanche. Enfin, ça c'est un élément botanique ou biologique plutôt. Donc,
Il y a une femme mystérieuse qui vit dans les marais.
Il y a cette femme qui vit dans les marais, et là aussi on retrouve des grands thèmes bretons, le marais du Yeun, la dame blanche, on retrouve des grands thèmes fondamentaux de la culture gauloise, celte, d'eau ancienne. Bon, il y a aussi une intrigue policière où là, il y a des personnages, des grands capitaines d'industrie du pétrole. Je ne donnerai pas de nom parce que je m'exposerai à des procès. J'espère qu'ils se reconnaîtront.
Je crois. Ouais,
ce que vous exprimez là, Éric Lebec, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Moi, c'est ce qui m'a frappé, et c'est pour ça, ça vous pouvez pas le dire, mais je peux moi le répéter après Serge. Je pense que c'est pour ça que ce livre a tant de style. C'est que vous parlez de choses que vous connaissez, que ce soit la Bretagne ou que ce soit certains mystères du Vatican.
Je vous remercie. J'ai en tout cas essayé de les connaître, essayé de les fréquenter. C'est vrai que l'histoire du manuscrit de Martin Balmer qui est donné à Paul VI,
c'est une histoire vraie.
J'ai eu entre les mains dans la réserve de la réserve de la Bibliothèque Vaticane où j'ai travaillé quelques années. Dans cette réserve de la réserve où on a accès uniquement parce que le pape a en personne signé 3 rescrits et sous peine d'excommunication, vous avez le droit de regarder. Sont touchés, enfin bon bref, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains physiquement ces manuscrits, c'est une histoire vraie. Alors c'est pas au père Anselme qu'elle est arrivée, c'est pas à moi non plus, le père Anselme ce n'est pas moi, je ne suis pas la loutre ou peut-être, enfin aussi ça je suis peut-être allez savoir, bon vrai que je travaille
le leur en tout cas
le leur,
car j'ai découvert en lisant ce livre et en lisant autour de ce livre que le leur c'est le vieux nom de la loutre quand même.
Oui,
L-E-U-2-R-E,
absolument, donc, oui.
Ça aussi, il y a quand même symboliquement quelque chose de très fort. Ouais. Bon, et quand vous parlez du Vatican, vous y avez séjourné longuement.
J'ai travaillé une dizaine d'années avec le Saint-Siège, avec le Conseil pour les affaires publiques du Saint-Siège, qui, comme son nom l'indique, s'occupe des affaires qui sont le moins publiques possible.
Ils ont le mot, c'est un service spécial, non ?
Je crois pas, je sais pas. Peut-être. Si je peux le dire un peu, puisque maintenant quelqu'un est mort, c'était Jean Violet. Il est mort depuis que j'ai publié l'histoire secrète de la diplomatie vaticane.
Mais pas à cause de ça, quand même.
Non. Et Jean Violet a installé le Saint-Siège aux Nations Unies, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée du siècle. Mais bon, le Saint-Siège avait pensé que c'était une bonne idée, et donc le Saint-Siège est entré dans ce machin et dans ce mouvement de démocratie universelle,
l'animation spirituelle de la démocratie universelle.
Il y a quelqu'un qui a dit ça, et donc Jean Violet a été le représentant, l'organisateur. Il a joué un rôle considérable, et donc c'est pas moi, c'est lui qui avait monté ce service d'information et d'analyse qui s'appelait SU Sintonum. Alors ça, c'est pas dans mon livre sur la diplomatie vaticane, puisque Jean Violet était vivant à l'époque, il ne voulait pas qu'on l'écrive ou qu'on le publie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Donc il faut faire une deuxième édition de la diplomatie vaticane.
Oui, on trouvera dans le roman des clés, des choses.
Et puis il y a un autre livre qui est présent en filigrane dans le repère de la loutre. C'est ce formidable bouquin que vous avez écrit qui s'appelle Miracle et Sabbat.
Ah oui, vous parlez du livre que je n'ai pas écrit du tout, puisqu'il s'agit du manuscrit que j'ai découvert.
Vous l'avez abondamment commenté.
Oui. C'est un manuscrit qui est totalement extraordinaire, puisqu'il a eu une influence énorme. Il a été l'âme de cette association secrète qui s'appelle l'AA. Association tellement secrète qu'on ne sait pas ce que veut dire le mot AA. Association fondée par les jésuites au XVIIe siècle, enfin animée par les jésuites, c'est un peu compliqué de savoir. Et cette association a été le cœur de la contre-réforme catholique, plus tard, chevalier de la foi, etc. Et s'est appuyée sur ce manuscrit qui n'a jamais été publié avant maintenant. Et il en existait des copies, plus ou moins bonnes, plus ou moins fausses d'ailleurs, il y a même eu des faux, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir l'original de la main même de Julien Mounoir, jésuite béatifié par Pie XII, pour le grand chagrin des jésuites.
Merci Éric Lebec. Alors il faut lire, ça s'appelle Le repère de la loutre.
Merci.
C'est un formidable bouquin.
C'est un passionnant roman. Voilà.
Et si on peut emporter 2 romans en vacances, on a le droit d'emporter Furia et Le repère de la loutre. C'est très différent à la fois dans l'écriture, dans le style et dans le sujet, mais c'est 2 grands moments de bonheur de lecture.
Merci.
Merci, c'est paru aux éditions Archipel, on l'a dit. Alors vous voulez dire quoi, vous, monsieur Goffman?
Je veux dire que la transition est fantastique, puisque je veux parler du Libre Journal dans les 3 minutes qui nous restent, et que j'ai sous les yeux l'article très enthousiaste podcast que nous a donné Jean-Cyle Devantavon pour le repère de la loutre par Éric Lebec aux éditions de l'Archipel, que nous avions déjà encensé quelques numéros plus tôt. Mais auparavant, avant de résumer...
Ça s'appelle un renvoi d'encenseur.
Voilà, un renvoi d'encenseur. Voilà. je voudrais... dans ce numéro 298, on fait un peu de publicité gratuite, comme toujours, pour la librairie Gaîtier. Alors moi, je voudrais d'abord dire un mot d'une librairie et d'abord d'une bibliothèque, la bibliothèque Jeanne d'Arc, à qui on a fait un peu de publicité gratuite. Je voudrais la faire de vive voix. Elle est charmante. C'est une espèce de petite bonbonnière où il y a quand même plusieurs milliers de livres qui sont exclusivement de notre famille de pensée. Alors, c'est au 17 avenue du Méril, dans le 13e, métro Campo Formio, ou le bus 91. Mais il faut, une fois qu'on est arrivé là, il faut absolument téléphoner, sinon on ne peut pas y avoir le... Il faut le code et il faut qu'on vous explique. Donc, je donne le téléphone 01 47 07 15 66. Il y a là une statue de Jeanne d'Arc, ce qui n'est pas pour nous déplaire non plus. Et il y a à côté de cette statue de Jeanne d'Arc, si on n'a pas trouvé son bonheur dans la bibliothèque, une librairie tout à fait sympathique qui s'appelle Le Cerf-Volant, que je recommande également.
Ce n'est pas pour les cerfs-volants. Vous pouvez répéter le téléphone?
Oui, alors la librairie Jeanne d'Arc donc reçoit le lundi et le samedi de 14 à 18 heures. Il faut absolument, quand on arrive 17 avenue du Méril dans le 13e, téléphoner au 01 47 07 15 66. Il me reste 2 minutes pour faire le sommaire du Libre Journal. J'ai là sous les yeux un message d'un auditeur qui exige absolument que je reparle de Cœur de Cuir. J'en suis ravi parce que j'ai l'honneur d'avoir été pilonné en même temps que Jean Dutour pour le Feldmaréchal von Bonaparte il y a un mois environ, et 200 autres auteurs. Mais j'ai pu sauver, grâce à mon papa, qui a quelques disponibilités, une centaine d'exemplaires. Donc c'est un collector maintenant, puisque j'avais vendu que 3000 exemplaires, c'est pour ça que je suis pilonné. Il en restait 2000, ils ont été pilonnés, sauf une centaine que je détiens personnellement. Et donc qu'on peut...
A pris fort. Alors,
voilà, j'ai pas le temps de parler de ce livre, et ce serait peut-être pas de bon goût, mais enfin, il s'est vendu principalement dans nos milieux, comme on dit. Il a une certaine réputation, donc les gens qui veulent se le procurer m'envoie 15 euros à mon ordre, à l'adresse du journal que je vais donner quand je vais signer.
J'ai fait une émission avec vous. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois.
Ah non, on s'est rencontrés.
On s'est rencontrés
en 86 ou 87, dans ce studio, en effet.
Alors, c'est ça, c'est bien ce que je dis, c'était la première, mais quand on a parlé de votre livre.
Qui est bien postérieur, Serge, de 14 ans. Peu importe. Donc, je rappelle, vous l'avez dit, mais je rappelle que nous, après avoir publié l'intégralité de la déclaration de Chirac de soumission à la franc-maçonnerie, nous l'analysons sur 3 pages. Je pense que c'est le principal article. Le journal de François Brugnot. Nous revenons en détail avec des informations exclusives sur la libération de Limonov, qui est aussi notre victoire, revue de presse, le journal des dames.
Il y a un très joli papier sur Brasillac de Marie-Claude.
Voilà. Libérer Louis de Bourbon par le marquis d'Olmeta, ça vaut...
Ça, c'est un papier qui est en train de faire un petit bruit.
Oui, et ça fait du bruit parce qu'il est saignant. Alors, donc, on est raisonnable, on prend un papier, un crayon, et... pour avoir ce numéro 298 ou le suivant ou un autre, on envoie un carnet de timbres. Si on a enfin compris que la presse patriotique doit vivre, et en particulier le Libre Journal, on envoie 110 euros à SDB 4 place Franz Liszt 75010 Paris.
Je dois ajouter qu'à ma courte honte, le papier sur les francs-maçons est un papier révisionniste. Je pèse mes mots. C'est probablement un des papiers les plus révisionnistes que j'ai
fait. Sauf que le réviseur n'est peut-être pas celui qu'on pense.
Qui consiste à réviser l'histoire de France et à lever le doigt quand on raconte des carabistouilles en disant « c'est pas vrai, vous êtes des menteurs ». Par exemple, le fait qu'on a déporté des gens parce qu'ils étaient francs-maçons est un pur et simple mensonge historique. On n'a jamais déporté personne parce qu'il était franc-maçon. On a déporté des gens qui étaient francs-maçons pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur appartenance.
Ce que nous soulignons aussi, 3 secondes, c'est que 3 ministres ont défilé à la queue leu-leu dans les jours suivants pour répéter textuellement le discours de Chirac, donc il y a manifestement une opération concertée.
j'y reviens d'ailleurs dans le prochain numéro. Voilà, je crois que... Ah, il nous reste 2 minutes, alors est-ce que vous voulez dire quelque chose?
Non, puisque...
C'est la première fois qu'on termine avant la... Oui, monsieur Lebec.
Excusez-moi, mais vous m'avez posé tout à l'heure des questions à propos des services secrets du Vatican, ce genre de choses, des livres que j'avais déjà fait, mais qui étaient des livres de documents, qui n'étaient pas des romans. Et que précisément, l'avantage de l'écriture d'un roman, c'est que, comme on est dans la fiction, on peut avancer des vérités...
L'arvatus prodeo,
par exemple.
On peut avancer masqué.
On peut avancer masqué, voilà. Et que donc, certains lecteurs trouveront des clés.
Il y a plus d'informations dans un roman que dans la réalité. Est-ce que Philippe Bornet...
Je pense que Philippe Bornet sera d'accord avec ça.
Ah, il y a parfois, oui, une hyper-réalité dans le roman. C'est-à-dire une espèce de caricature et d'amplification. Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire que la comtesse Vendramin était plus vraie de nature. La comtesse Vendramin est pour moi une personnification de la contre-révolution et de nos idées. Mais je ne l'ai pas dit à tout le monde, seulement sur les ondes de Radio
Courtoisie. Ça apparaît.
Alors, est-ce qu'on écrit après Le Rouge et le Noir, comme on écrit après Chateaubriand, après Céline?
Ah, moi j'adore Stendhal. J'adore Stendhal, mais justement, il apporte de l'eau à mon moulin, puisqu'on parlait tout à l'heure de style. Vous savez que Stendhal disait « Je n'écris jamais que lorsque j'ai lu pendant 10 minutes le Code civil pour me donner le ton ».
C'est vrai, il disait le Code civil.
Et la comtesse Vendramin, elle paraît, pour reprendre ce que disait Serge tout à l'heure, elle paraît sortir tout droit d'un livre de Le Nôtre.
Oui, absolument, c'est un personnage.
Et on croirait que Le Nôtre lui a consacré. Là.
Merci Éric Brogio, merci Philippe Bornet, auteur de La Furia, qui est paru chez France Empire. Merci Éric Lebec, auteur du Repère de la loutre, qui est paru chez
L'Archipel.
Merci Eric Goffman, auteur de Cœur de cuir.
Chez Flammarion.
Qui est paru chez Flammarion.
Le Pilonneur.
Le Pilonneur. Merci Victoria, auteur de quoi?
De rien.
Bon, félicitations, continuez. Bonne semaine, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, 6. À Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juillet 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de